Je suis en retard. J'arrive. Alors, on est là. Un peu de son, voilà. Je m'entends. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quand on était en radio, quand on était jeune, on testait les micros avec une vieille phrase qui était un peu étrange. On disait, il y a des gens qui font de la radio. On disait Paris, Bordeaux, Le Mans. C'était pour tester les micros. C'est une espèce de phrase. Certains ont connu ça ou pas? Paris, Bordeaux, Le Mans. Vous avez des mecs dans les studios radio qui arrivaient le matin, ils testaient leur micro et t'en donnaient des Paris, Bordeaux, Le Mans tout le temps. C'était hyper bizarre. Jamais compris pourquoi Paris, Bordeaux, Le Mans, pourquoi pas Roubaix, Nice, je sais pas. Paris, Bordeaux, Le Mans. Paris, Bordeaux, je sais pas. On est trop jeune, ça, moi, ça joue. Merci de me rappeler mon âge canonique. Vous allez bien? Il y a l'appel du lit ce matin, je vais faire une grasse mat, puis non, finalement. J'ai eu les journaux. Oui, Nancy, pourquoi pas. Après, le problème, c'est que si on part sur ce débat, chacun a proposé sa ville, je vous connais parfaitement. La radio, c'est un média formidable. Pas mal, ouais, bien sûr. Rodez, Grenoble, Biarritz. Donc, canonique, il y a canon. Oh là là. Pardon. Es-tu le dernier nostalgique de l'ORTF du coup? Ah bah moi j'ai connu avant. J'ai connu avant qu'il y ait la radio, la télé, tout ça, avant qu'il y ait l'électricité. Hein. J'ai connu. Il y a une époque, l'homme devait se battre contre des bêtes qui n'existent plus. Hein. C'est pour bien articuler. Non, c'était un test de. Vraiment un test de micro, Brobo. Savoir si le micro marchait ou pas. Oh là, la pression. Arte B. Bonjour, c'est la première fois que je suis. Le live ce matin, et quoi? Et je suis impatient de découvrir, voilà, on va s'appliquer. Déjà, j'ai pas dit de gros mots encore. Je n'ai pas dit de gros mots encore, mais ça ne saurait tarder. Il a connu Radio Londres. J'ai connu avant la radio, moi. J'ai connu avant l'électricité. Tu ne joues pas du tout à Warzone. J'ai chassé le mammouth. J'ai beaucoup été chassé par le mammouth. Warzone. Warzone. Ne me parlez pas de nouveaux jeux vidéo, parce qu'après, je vais voir, moi. Battle Royale. Ah, Call of. Ah, c'est un Call of. D'accord. J'ai pas trop joué à Call of, moi, encore. Right. Maîtresse de ma fille absente aujourd'hui, donc télétravail, la matinée tienne. Trop bien. Bah, tu féliciteras, tu remercieras la maîtresse. Merci, Oman. Salut, The ALPB. Merci pour le message. Quand est-ce que tu fais du refait du Fortnite? J'en fais une fois avec Inox, mais je n'ai pas prévu d'en refaire. Je pense que je prends Fortnite avec un peu trop de retard, quoi. Mais j'ai déjà regardé quand tu joues à Valorant, c'est exceptionnel de te voir t'énerver en douceur. C'est vrai que je m'énerve en douceur, ouais. Je m'énerve beaucoup trop, mais finalement, je rage assez doucement, finalement. Même hier soir, on a eu un gamin qui est venu en DM viewer, vous savez. Le mec était un observateur, il a insulté la terre entière, quoi. Moi d'abord, mon père, Evoxia, en plus on était choqués. C'est quoi le truc de jeune là? On était choc barre de baiser. Choc barre de baiser. J'étais choqué d'autant de bêtises en fait. Waouh, j'en suis encore choqué. Choc barre de baiser, c'est ça? C'est bon, c'est ça? Merci Dollar pour le 18e mois. Tu t'appelles Dollar, tu subes en Dollar, c'est beau. Merci Démon Golem. Merci Claire Dedi. J'avais pas vu. Merci Cassé Maxime. Merci. Pff, incroyable. Il y a encore des blagues sur. Est-ce toi que j'ai croisé au café hier soir? Non, j'étais en stream. Ah ah! Voilà une bonne question. Plutôt que. Est-ce que c'est toi que j'ai croisé au café hier soir? Tu crois que j'ai le temps d'aller au café? Hein? On stream ici. Question de je préfère les chocolatines. Ça te regarde. Bonjour Sam, virgule. Bonjour. Déjà une question commence par bonjour. Où il y a de la ponctuation. Bonjour Sam, virgule. Ça c'est beau baby. Vas-tu participer à la Zidane de cette année? Ça c'est une très bonne question. Samedi à 20h, Zerator sera en live sur sa chaîne pour annoncer le contenu, la forme, les jeux, les règles de la Zidane. 2025, grande compétition, grande LAN de jeux vidéo à laquelle j'ai participé l'an dernier pour la première fois. Pourquoi tu as l'air bronzé aujourd'hui? Parce que je suis fatigué. Quand je suis fatigué, je bronze. Quand j'ai bonne mine, c'est que je suis exténué. Comme vous voyez avec le teint un peu vert, hein, c'est que je suis en pleine forme. Voilà. Ah, il faut décrypter. Et donc, première participation l'an dernier. La question était de savoir si quelqu'un avec mon expérience du jeu vidéo allait terminer dernier sur. On était combien? 300? Ou 100? Quand je suis arrivé dans la salle, il y avait tous ces PC. Merci Alphabine pour le 24e mois. On était 188, on était 200. Voilà. La question de savoir si j'avais terminé dernier. J'ai terminé avant-dernier. Avant-avant-dernier, ce qui était une énorme surprise. Hein, les médias du monde entier en ont parlé. CNN en a parlé. El País, en Espagne, en a parlé. Qu'est-ce qu'on a Die Frankfurter Allgemeine, en Allemagne, on a parlé. The Times, on a parlé. The Independent, on a parlé. Et j'étais avant-avant-dernier. Voilà. Dans le top 3 en partant du bas. Et donc la question est de savoir si je vais participer cette année ou pas à la Zidane 2025. Voilà. Eh bien, je vais vous répondre. Eh bien, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Merci la cantine. Oh! Comment ça va la cantine? Est-ce que la vie va bien? Merci pour le 20e mois. Ouais. Donc, je vais vous répondre. Samedi soir, avec l'autorisation de Zera. Le Monde a fait un article là-dessus. Non, ils étaient trop pressés à écrire sur les proutes. Ils étaient trop occupés. Ils avaient un article à écrire sur les proutes. Et donc, ils n'ont pas pu parler de la Zidane, qui est pourtant un événement hyper intéressant. Pardon. Donc, samedi soir à 20h, avec l'autorisation de la Misera, je vais react sa soirée. Parce qu'une annonce de Zidane, ça vaut son pesant de cacahuètes. On va regarder ce react ensemble. Hein, et je déciderai à l'issue de ce live, en direct live, en direct live, en direct live, ce qui est redondant puisque un direct c'est en live, un direct live instantané, hein, si je participe ou pas. Donc je vous le dirai samedi soir. Et ouais, on est comme ça ici. En fonction des jeux, ouais. En fonction des jeux, en fonction des règles aussi. Si à Wreckfest tu réfléchis pas, tu y vas. Wreckfest, j'ai adoré. C'était le jeu sur lequel j'avais le plus de. Alors, je vais afficher et épingler Joe Panda se fait des pancakes qui vient d'écrire cet interdit de React un live et qui n'écoute absolument pas ce qu'on dit ici. Imaginez ce que ça donne quand on parle du Proche-Orient. Hein, je viens de dire, avec l'autorisation de Zerator, je vais React sa soirée. Voilà. Et on a notre ami qui nous écrit, qui n'écoute rien, c'est interdit de React un live. Vous imaginez quand on parle du Proche-Orient, ou de sujet un peu sérieux, ce que ça donne dans le chat. Les gens qui n'écoutent pas. Oh là là, c'est fatigant, c'est épuisant. Ah. Donc on décidera samedi. Du coup, tu vas rester épinglé comme ça. N'apprendra pas à écouter. Merci Shinkin. Peu importe son autorisation, Twitch n'est pas d'accord, j'ai bien écouté. Attends, on épingle parce que Joe Panda se fait des pancakes et en mode vraiment, c'est le justicier de Twitch. Peu importe son autorisation, Twitch n'est pas d'accord. Mais est-ce que Joe Panda se fait des crêpes serait Twitch? C'est-à-dire que le React est interdit par Twitch. Je répète, le React est interdit par Twitch. C'est-à-dire que tous les streamers, y compris les plus gros ces derniers jours qui ont fait du React sur je ne sais quel sujet. Je pense à un ami proche qui fait du React de questions pour un champion, par exemple. Depuis des années, je sais pas si vous voyez de qui je veux parler, dans une magnifique nuit de la culture. Ça, c'est interdit, ça. Qui es-tu? Joe Panda fait des crêpes. Qui es-tu? Il va falloir que tu écrives à beaucoup de gros streamers. Et puis, je dis des gros parce qu'il n'y a pas que les gros. Ah, j'adore. Ah, c'est des pancakes, c'est pas des crêpes. J'ai pas écouté, putain. Donc, passons. Donc, on fait ça samedi soir. Faudra peut-être que je lance ma chaîne en vue d'un règle de mon prochain passage. Oui, mais il faut l'autorisation, en revanche. L'autorisation des détenteurs de droits. Donc, il faudra que tu demandes à Fremantle et à France 3 si tu peux réagir question pour un champion. Eh oui, MMG. Eh bien, oui. Et oui, là par exemple, je stream et je réacte Zera parce que j'ai demandé à Zera si je pouvais le faire. Ah oui, ça c'est le minimum par contre. Et c'est ça le sujet. C'est important de demander l'autorisation à ceux qui ont les droits d'un contenu, sinon ça s'appelle le piquer, le piller, le copier, ce que vous voulez quoi. Ça c'est mal. Je t'autorise à me réacter en live. Merci Étienne. Oui, on a vu les edits. Trop bien. Ah, merci MMG. Point d'exclamation étoile avec un S, Baptiste le Radiateur. Et tu sauras que Rayou passe le 22 mars, c'est dans quelques jours. Hein. Il n'y a plus beaucoup à attendre. C'est un samedi, 18h10. Étoile, question pour un champion. Est-ce qu'il passe le 9 points gagnant? Est-ce qu'il passe le 4 à la suite? Est-ce qu'il gagne? Est-ce qu'on passe par un jeu décisif? Est-ce qu'il enchaîne? Est-ce qu'il gagne une fois? Deux fois? Trois fois, quatre fois, cinq fois, on ne sait pas, on ne sait pas. Tu lui as donné question facile? Bien sûr que non, l'émission c'est la même que d'habitude, elle est ni plus facile ni plus difficile que n'importe quelle question pour un champion, évidemment quoi. Probité, honnêteté quoi. Et je pense que Rayou le réactera aussi, je pense. Mais il a pas lancé encore. Mystère et boule de gomme, bien sûr. Est-ce qu'il faut que je regarde aussi le 23 mars? J'ai piscine donc je dois annuler si besoin, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, je n'ai pas le droit de le dire. Je n'ai pas le droit de le dire. Bon, est-ce que vous allez bien, vous d'abord? Est-ce que la vie va? Tu l'as appelé Étoile ou Rayou? Je l'ai appelé Ryan, je crois. De son vrai prénom à l'état civil. Oh, force! Maëlle, je sors de ma garde. De ma garde et pas de ma garde à vue, parce que c'est pas pareil. Donc, plutôt dans les métiers de la santé, plutôt que dans les métiers illégaux. Parce que tu vois, ça se joue à pas grand-chose. Je sors de ma garde et tu vas m'aider à m'endormir grâce à ta voix, ce qui est plutôt agréable. Allez, rajoutez deux petits mots. Je sors de ma garde à vue et tu vas m'aider à m'endormir grâce à ta voix. Vous voyez, c'est pas la même histoire. C'est pas le même chemin de vie, quoi. Et force à toi, bravo. Tu l'as vouvoyé? Je crois que je l'ai vouvoyé, du coup, ouais. Parce que comme je vouvoie les candidats, je crois que je l'ai dit au début de l'émission, et Ryan sera traité comme les autres, quoi. Ça va la cantine. Oh, un petit coup de fatigue ce matin, mais pleine forme. Merci Tiklem. Merci Nock. Quelqu'un me parlait de Nock FPS comme quelqu'un qui faisait des trucs sur TikTok. T'as dans le chat? Non, c'est pas ça, c'est une bêtise. Bonjour Sam, je viens d'arriver. C'est aujourd'hui qu'est diffusée l'émission avec Rayon, me dit Okoshi. Alors l'émission avec Rayon, c'est plus tard. Alors, il y a Rayou le 22 mars et Rayon, c'est plus tard, c'est en juin. Voilà. Enfin, c'est deux émissions, parce qu'il y a Rayon vert et Rayon jaune. Donc, c'est. Mais je vous donnerai les dates. T'as déjà fait des jobs que tu détestes avant de bosser dans la télé? Dans mon métier à la base, qui était le journalisme avant, j'ai travaillé dans des rédactions au tout début quand j'étais jeune, que je n'avais pas vraiment choisi et qui n'étaient pas forcément. Où j'ai pas trop kiffé quoi. Au début, tu choisis pas trop où tu bosses, hein, on va pas se mentir. Et au fur et à mesure de l'expérience, j'ai pu choisir les endroits où je bossais, en étant un peu exigeant, et en disant tiens, moi j'ai plutôt envie de bosser là, et là ça devenait plus sympa quoi. Et plus j'avançais, et plus ça devenait sympa quoi. Rayon jaune, marron derrière, vous l'avez, beginner, on l'a. Hein. Bioman, Bioman. J'adore. J'adore. J'aime cet humour. On peut être de garde et finir en garde à vue aussi, l'un n'empêche pas l'autre. C'est rare quand même. Hein? C'est rare. C'est rare, c'est plus rare. Vénène, bon courage pour les cours. Barnangen 11, si je peux me permettre, je trouve l'introduction à un chouï longuette. Alors d'habitude, on fait une demi-heure d'introduction, à peu près. C'est l'école étoile, justement. On est à 19 minutes. Et puisque tu viens nous le demander avec beaucoup de gentillesse, on va faire une heure d'introduction ce matin. Voilà. Au lieu d'une demi-heure. Juste pour toi. C'était François Colas Dangereux, le candidat qui avait 14 victoires d'affilée là. On va faire une heure. L'intro se terminera aux alentours de midi 26, exactement. Non, dans 5 minutes, on part sur la revue de presse. Je vous abandonne à midi parce que j'ai oh oui, j'ai une réunion à Teams pour préparer le MVP de demain. Le MVP de demain. En vrai, qui est pas mal. Hop. Ah, et, oh, ça, c'est pas mal, ça. Les amis. Le télétravail. OK? Vous savez que le télétravail, qui était assez peu pratiqué en France jusqu'à la crise sanitaire, a bien sûr explosé avec le Covid, avec la crise sanitaire. Beaucoup de salariés ont découvert le télétravail et certains ont beaucoup aimé, quoi. Sauf que dans le post-Covid, lui est caractérisé, marqué par une baisse du télétravail avec des entreprises qui souhaitaient qu'il y en ait moins. Hein. Et bien, on fait une émission là-dessus. MVP, ma vie pro, l'émission qui explore les voies professionnelles pour ceux qui se demandent ce qu'ils vont faire plus tard ou qui ont envie de changer un petit peu de voie pro. Hein, c'est vraiment pour tous les âges. Donc MVP, c'est 2 fois par mois. C'est à 18h. C'est le mercredi. On aura Trixie, qui est un peu notre invitée, notre chroniqueuse, notre super chroniqueuse qui sera avec nous toute l'émission. Il y a un gars qui connaît bien le sujet, qui est un créateur de contenu qui s'appelle Clovis Oriot, qui s'appelle le télétravailleur. Et qui va apporter ses lumières avec une grosse chronique là-dessus. Ludovic B, c'est notre spécialiste des métiers qui découvre sans arrêt des métiers. Il a une chaîne YouTube incroyable et donc il nous fera découvrir de nouveaux métiers. Et Cyprien, mesdames et messieurs, le YouTuber, sera mon invité MVP pour une interview, pas sur le télétravail, mais sur sa vie, sa carrière. Voilà. Il y aura quelqu'un contre? Ah non, c'est pas, non, t'es pas sur CNews, Quintino. Hein. Ah non, 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 mais non, ouais. C'est pas Pascal Praud ici. Ah non, c'est pas des débats de chaîne d'info en continu, des débats pour ou contre, ça crie. Non, 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 c'est pas des. Non, non, c'est. Non, on éclaire un sujet, on n'est pas là pour se foutre dessus, quoi. Oh. Vous avez des chaînes pour ça. Hein. Il y en a assez déjà. Il y en a assez. Hein. On envoie la force à Sac qui est en pleine semaine de BTS blanc. Allez, je lis encore une ou deux questions. Sur CNews, il n'y a personne contre l'avis de la prod non plus. Ouais, c'est pas faux. Mais je suis du débat. Ils arrivent. Donc, t'es en train de me dire que, en gros, ils sont tous d'accord entre eux sur le plateau, mais ils arrivent à se crier dessus quand même? Ou à crier tout court? Ouais, je sais, Alexandra, il y avait un jeune homme un peu bizarre hier. Mais je pense qu'on ne va pas le revoir aussitôt. C'est quand que l'interview de fin, c'est toi? C'est quand que l'interview de fin, c'est toi? Ah, c'est. J'ai compris. Jamais. Moyenne d'âge des viewers. Bah, autant on fait des sondages. Ces dernières années, quand on a fait des sondages sur l'âge. L'âge des viewers, à 75%, les viewers ici avaient entre 18 et 30, 35 ans. Il y avait assez peu de mineurs, pas beaucoup, notamment parce que je stream beaucoup le matin. Et on va dire les 20% qui restent ou les 25% qui restent ont au-delà de 30-35 ans. Voilà. Après, vous avez tous pris 2-3 ans. Bah oui, c'est vrai. Merci, Dounis. Wanjoy, bonjour Sam, je ne comprends pas le message épinglé. Peux-tu m'éclairer, s'il te plaît? Moi non plus, je ne le comprends pas. Je suis désolé, je ne peux pas t'éclairer dessus, mais du coup, je l'ai épinglé. Samuel, est-ce qu'il y aura un jour une matinée info, mais qu'avec des infos positives, good vibe? Non, pas trop, non. Je suis désolé. Capacité, bonjour Samuel, je songe à arrêter mes études, qu'en penses-tu? Sur le coup, j'ai envie de te dire non. Parce que c'est ce qui va te permettre de mettre toutes les chances de ton côté pour sécuriser ton avenir professionnel, ouvrir le champ des possibles. Et en même temps, si tu as une idée professionnelle là. Qui peut t'amener la sérénité, l'équilibre, voire le succès. Je vais remercier les amis de Naotech Team pour ce magnifique raid. Et que ça passe par le fait d'arrêter des études parce que tu as trouvé une autre voie. Si c'est ça que tu es en train de me dire, une autre voie qui va t'amener vers des choses positives, il faut pas que tu t'en empêches. Mais si c'est arrêter tes études pour arrêter tes études pour jouer à Valorant ou à CS, non, tu vois. Comment ça, go de fou pour Valo et CS? Non, 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 non. Dimitri, salut Samuel, comment peux-tu me motiver à lire un journal chaque jour au quotidien? Non, non, ne le fais pas. Non. Il faut que ce soit un plaisir. Ne t'oblige pas à lire un journal au quotidien. Lis un journal quand t'as envie de lire un journal, quand t'as du temps pour lire un journal. Tu te le télécharges, tu l'achètes au kiosque du coin, tu varies les plaisirs, un jour le Figaro, un jour Libération, un jour l'Humain, un jour la Croix, un jour l'Opinion, un jour les Échos, un jour l'Équipe, un jour le Monde, un jour le Parisien, j'espère que j'en ai pas trop oublié, et tu te fais plaisir. On n'est pas. C'est important d'être informé, mais ne vous imposez pas de l'info tous les jours. Enfin, vous êtes en vrai, vous n'êtes pas obligé de vous imposer de l'information tous les jours. Achetez un journal de temps en temps, tenez-vous au courant de la marche du monde. Vous achetez un ou deux journaux par semaine, ça ira bien. Hein. Voilà. Hein. Tu vois? Donc, il faut que ce soit un plaisir. C'est quand t'as le temps, quand tu. C'est important de le faire, mais pas tous les jours, quoi. Bonjour Samuel, ne penses-tu pas que les infos tous les jours, ça rend aigri, triste? Ça dépend quel média tu consommes. Moi, je trouve que la presse écrite, pour le coup. Un média sur lequel tu es actif, qui ne s'impose pas à toi, c'est pas un JT que tu consommes passivement assis, ça n'est pas un conducteur qui défile devant toi sans que tu puisses en modifier l'ordre. C'est un bon bref, un journal que tu feuillettes, que tu prends quand tu as le temps, dont tu vas lire les articles qui t'intéressent le plus en premier. Donc une démarche active par rapport à l'info, je trouve que du coup c'est moins anxiogène quoi. C'est pour ça que je lis les journaux. Enfin, une des raisons. Bonjour Samuel, quelle est ta couleur? Es-tu plutôt de gauche, droite, centriste, écolo? Ma couleur, je dirais gris. Gris avec un logo Valorant Masters. Ouais, j'aurais cette couleur-là. Merci Grabuche 3. Et allez voir. N'hésitez pas. Est-ce que les modos pourraient épingler la chaîne Naotech? Hein, sur YouTube, sur Twitch, une chaîne qui vous donne toutes les infos de la tech, hein, toutes les infos, notamment avec une très belle matinale. Merci Sugar, t'es super. Et merci du raid, les amis. Je sais pas qui était en live sur Naotech. Ouais, c'est vraiment du super boulot. Grabuge 3, le pipi matinal était exceptionnel. Coucou Samuel. J'ai pas la ref, mais je suis très content. Bonjour de la part d'un gars qui s'ennuie au bureau. Force Kiki Plan. C'était Marion. Coucou Marion. Calidance Ngola, comme vous, j'adore les vieilles. Calidance Ngola, monsieur Étienne, comme vous, j'adore les vieilles. Ah non, j'ai pas tout lu. Monsieur Étienne, comme vous, longtemps que j'ai eu le permis moto, j'ai beaucoup roulé, j'adore aussi les vieilles. Les vieilles motos. J'avais pas tout lu. J'avais pas tout lu. Ah non, mais j'ai lu qu'une petite partie. Ok. Oui. Oh, ça vaut. Je prends un petit peu de sirop pour la toux. Ah. Oui, les vieilles cylindrées. Les vieilles motos, quoi. Il m'a fait peur. Et hop, la goulée. Ah oui, le sirop contre la toux, c'est au millilitre ici. Hein. Je vous rappelle que la posologie des médicaments est très importante. Hein, il faut vraiment prendre la dose prescrite, précise. Et donc, d'où. Voilà. D'ailleurs, je crois que j'en ai pas pris assez là. Bon! Les amis, est-ce qu'on ferait un petit sommaire de revue de presse? Là, entre nous, à la chill, à la cool. Mastoti, bonjour, je cherche à changer de métier. J'ai 35 ans, je ne sais pas vers quel organisme me tourner pour avoir des idées de métier accessibles en reconversion. Quelqu'un peut m'aider. Alors, moi, j'allais dire, regarde MVP, qui est mon émission deux fois par mois, le mercredi à 18h, qui ne parle que de ça. Mais au-delà de ça, les amis, Mastoti cherche peut-être des liens, mettez pas de liens, on peut pas coller de liens dans le chat, mais des noms de sites où il pourrait trouver des organismes pour avoir des idées de métiers accessibles en reconversion. Hein. Tiens, regarde, il y a Gemerosan qui te dit pour changer de métier, tu as projet transition pro. N'hésitez pas à donner des infos à Mastoti. Donc je vois projet transition pro, d'autres propales. Melchior me dit que France Travail, l'ancien Pôle emploi, peut t'accompagner. Le Lozir dit, je suis chargé de formation, tu peux prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qui saura t'orienter. Petite Cosmic me parle du bilan de compétences avec ton quota CPF. Voilà. Il y a des conseillers, me dit la MZ, effectivement. Voilà, tu vois, n'hésite pas. Le chat ici, c'est les meilleurs. Pour se former en vue de changer des métiers, il y a l'APEC. C'est pas pour les cadres, ça, Samuel Vimer, c'est ça? Voilà, pour les cadres, l'APEC fait des bilans et des rendez-vous pas mal, confirme Team Petit Pain. Voilà. Le bilan de compétences m'a beaucoup aidé, me dit Jaime Rosan. Je suis en formation actuellement, renseigne-toi avec la région également, dit Jacques Herrer. Le site Cléor, C-L-E-O-R, me dit le lapin de Gien, est bien aussi. Tu as plein de fiches métiers sur Onicep. Donc Onicep, tu connais, hein, O-N-I-S-E-P. Par exemple, pour avoir des idées. Moi, j'ai fait une formation pour adultes avec l'organisme le Greta, G-R-E-T-A, / CFA. Je suis électricien dans le bâtiment. Voilà, ouais, vous êtes parfait. Mon ami qui a posé la question, j'espère que tu as pu tout noter. Sinon, tu remontes le chat ou tu regardes en replay. Là, t'as plein d'infos, quoi. On a parlé du procès Ubisoft longuement hier. Advance, c'était la lune de Libération. Faut que je note, il y a trop d'infos. Alors moi, Sauti, ce que je te conseille, c'est de regarder, je sais pas si tu peux remonter le chat sur l'appli et de noter tout ça tranquillement. Sinon, tu regardes le replay, gratuit, accessible tout de suite sur Twitch si t'es sub, mais dès demain, tu l'as sur YouTube, hein, et tu pourras renoter tout ça, quoi. Voilà. Right? Sam, j'ai dentiste bientôt, je te laisse jusqu'à 10h pour commencer le sommaire, sinon je me fâche. On y va tout de suite. Merci Mathis pour le soutien. Voilà. Tu fais des screens avec ton tel. Ok. Prêt pour le sommaire, les beaux gosses? Ok. C'est parti. Alors, hier, on a été un peu pris par le temps, parce que de rien, Mastoti. J'espère que ça va t'aider. Bon, et du coup, on a un peu bâclé là, à la fin de la revue de presse, donc il y a trois infos sur lesquelles je voudrais revenir. On le fera à la fin. Attends, je prends mon... Pour moins baisser la tête, j'ai fait un setup de fou avec un bol. Hein. J'ai un très beau bol. C'est un bol qui vient du Tibet. Voilà. Et donc voilà, le bol est installé. Donc il y a en ce moment une campagne choc contre le cancer colorectal, une incitation à dépister le cancer colorectal. Alors je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai participé à la campagne. Donc ça, on va en reparler, mais rapidement, comme ça on verra le petit clip que j'ai tourné pour France Télévisions. Mais rapidement, un peu de prévention pour ceux qui ont 50 ans et plus, ou qui se rapprochent de 50 ans, ou qui ont des parents qui ont plus de 50 ans, et pour faire un peu de prévention à la maison, quoi. Voilà. On parlera de ça rapidement. On parlera d'IA, parce qu'il y avait deux beaux articles IA dans les échos que j'ai pas pu vous lire, sur le fait, et c'est plutôt inquiétant, que l'intelligence artificielle fait son trou. Ah, c'est drôle parce qu'on vient de parler de cancer colorectal. Ça, c'est marrant, ça. Et c'est étonnant comment les infos se télescopent, quoi. L'intelligence artificielle qui fait son trou dans le doublage de films étrangers, ça veut dire c'est de l'IA et ce ne sont pas des comédiens de doublage des hommes et des femmes, c'est un petit peu embêtant. Voilà, ça arrive sur Prime, je crois. Salut, Mag. Et puis, une nouvelle IA vocale qui fait sensation. Paraît-il, qui s'appelle Maya. Les infos sous télescope ou sous coloscope. Joli, joli. Donc on en parlera, ça c'est des sujets que j'ai pas pu traiter hier. Sinon, dans les infos du jour, du matin, la une du Parisien sur le pape François, hein, dont la santé est défaillante, déclinante. Le pape va-t-il démissionner? Question du Parisien ce matin. 88 ans, hospitalisé depuis le 14 février. À la tête de plus de 1,3 milliard de catholiques, le Saint-Père a convoqué les cardinaux à Rome, donc ça c'est l'info, et pourrait, à cette occasion, mais c'est pas sûr, décider de renoncer à sa charge, comme l'avait fait, je crois, le pape précédent. Est-ce que c'était Benoît XVI, c'est ça? L'hypothèse circule en tout cas dans les couloirs du Vatican, on lira ça ce matin. Hier, quelqu'un m'a dit, Samuel, tu ne parles pas de la Syrie. Voilà, c'est ça. Hein. Si le pape démissionne, on aurait trois papes. Oui, t'as raison. Les deux anciens papes et le nouveau pape, ouais. Est-ce qu'il y a une formation à PEC pour devenir pape? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être que si tu vas à l'ONICEP, il y a peut-être une fiche pour devenir pape. Et donc hier, quelqu'un m'a dit, mais Samuel, est-ce que tu parles de la Syrie? Et j'attendais un dossier un peu complet sur le sujet. Effectivement, hier après-midi, Le Monde est sorti avec un dossier en une, en première page, sur la Syrie, où il se passe des choses très graves. Syrie, la transition menacée par les tueries. Des affrontements sanglants ont lieu depuis le 6 mars entre les partisans de l'ancien président Bachar el-Assad et les forces du nouveau régime. Benoît XVI est mort en 2022? Ah ben on ne me dit rien, moi. Benoît XVI est décédé en 2022? Mais on ne me dit jamais rien, quoi. Ah, je sais pas, je suis sous le choc, là. Benoît XVI est mort. Ah ben voilà. Voilà, tout le monde le sait, sauf moi. C'est incroyable, ça. Toujours les meilleurs qui partent en premier, quoi. Ça, alors. Ah, voilà. Désolé, on voulait pas que tu sois triste. Bah oui, mais bon. J'ai pas été invité, en tout cas. Si tu lisais un peu la presse aussi, bah j'ai dû louper ce jour-là. Ce jour-là, je devais pas être en forme, j'ai pas eu le journal. Merde! Ok. Donc, pardon, je reviens à la Syrie. Donc, des affrontements sanglants ont eu lieu depuis le 6 mars. Près d'un millier de civils, principalement issus de la communauté alaouite, ont été tués par des groupes islamistes sunnites alliés du pouvoir. On prendra le temps de décrypter tout ça. Le président par intérim a lancé un appel à la paix civile, promet de poursuivre en justice les auteurs des massacres. L'ancien chef du groupe islamiste HTC semble débordé par les factions radicales qui l'ont aidé à renverser l'ancien régime. Des exactions, des violences donc, hein, qui compliquent la tâche du pouvoir qui a besoin d'une levée de sanctions internationales frappant le pays. Voilà. Certains m'ont demandé d'en parler hier, je vous ai trouvé un dossier qui semble complet sur le sujet. C'est un sujet complexe, on essaiera de le comprendre ensemble. On prendra le temps là-dessus. Alors, bon, en ce moment, vous savez qu'il y a une nouvelle donne, nouvelle distribution des cartes de la diplomatie internationale avec depuis l'élection Trump, hein, qui a une position surprenante sur l'Ukraine, où en gros, il dit à Poutine, t'es le meilleur. Pourquoi on te reproche d'avoir envahi un pays? Qui dit à Zelensky, bon, maintenant, c'est fini de faire la guerre. Non, mais moi, c'est parce qu'en fait, je fais la guerre parce que je me défends, parce qu'en fait, le pays a été attaqué. Non, c'est fini. C'est fini de faire la guerre maintenant. Hein. C'est fini les bêtises. Hein. C'est pas bien la guerre. Hein. Donc, monsieur Zelensky, il faut arrêter et puis vous laisser tous les territoires à la Russie. Là, ça ira bien. Ouais. Bref, je vous résume la situation. Et puis, qui dit aux Européens, puis vous débrouillez-vous avec ce truc. Puis, de toute façon, l'OTAN, c'est terminé. J'ai ras-le-bol de protéger l'Europe. Voilà. Donc, il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne. Les Européens contraints à un sursaut stratégique, hein, c'est l'ONU Figaro, face à la menace russe en Ukraine, alors que Washington se désengage, hein, Emmanuel Macron réunit aujourd'hui les chefs d'état-major européens, donc quasiment toute l'Europe, hein, pour tenter de compenser le gel de l'aide américaine. Ouais, parce que si les États-Unis veulent plus participer à la protection des pays européens, ben, ça veut dire qu'il faut se réarmer. Ça veut dire qu'il faut investir dans la défense. C'est des sommes considérables. Et donc, ils vont en parler aujourd'hui, quoi. Ouais. Et Musk qui vient de traiter un sénateur américain en visite en Ukraine de traître. Ça, j'avais pas vu, Nix. Après, Musk, bon, est-ce qu'il faut faire attention Enfin, si, parce que du coup, c'est un homme d'influence. C'est quand même quasi bras droit de Trump. Mais est-ce qu'il faut vraiment. Est-ce que, hein. Rien à voir, mais tu as vu la une du Figaro Magazine ce week-end. Non. Plaisanterie, je n'ai pas vu. Voilà. Donc on lira ça ce matin aussi. L'indispensable réveil, dit le Figaro, face à la menace russe sur toute l'Europe. Hein. Quelqu'un me disait dans le chat tout à l'heure, j'ai pas réagi à chaud. Mais Samuel, est-ce que t'es pas inquiet de la position du président Macron vis-à-vis de Poutine, sous-entendu, ça va nous mettre dans la merde, ça tend les relations entre la France et la Russie, est-ce qu'il n'est pas fou, Macron, Bah, si tu veux, bon, je suis un peu au café du commerce, hein, je suis pas un spécialiste de diplomatie, mais à un moment, quelqu'un comme Poutine qui a décidé d'envahir l'Ukraine, et demain qui peut envahir d'autres pays, je sais pas, la Roumanie, les Pays-Baltes, à un moment, si tu dis pas stop à quelqu'un comme Poutine qui rêve d'une grande Russie et qui estime que les frontières de la Russie sont extensibles, à un moment, si tu dis pas stop, tu prends des menaces pour ta propre sécurité, quoi. Donc, c'est un peu la logique de ce qui se passe en ce moment, quoi. Alors que le vieux continent doit impérativement prendre en main sa défense depuis la prise de distance américaine, le président Macron, donc, s'exprima aujourd'hui devant 31 chefs militaires appartenant à l'Union européenne, à la Grande-Bretagne, au Canada également, et à la Turquie, quoi. Salut Lilou, vous savez qui? Donc ça, article sur la tuile internationale, on a des choses un petit peu importantes ce matin, quoi. Ça c'est une. Pourquoi je parle de Todd? Ah non, c'est la fin de l'article. Ok, d'accord. Et puis en dernière page du Monde. Souvent c'est là qu'il y a l'édito, c'est intéressant. Donc il y a deux choses. Puisqu'on parle de Trump, il y a la guerre commerciale voulue par Trump, la drôle de guerre commerciale, me dit Stéphane Loer. Il y a de plus en plus de gens aux États-Unis qui se disent que cette guerre commerciale, c'est pas l'idée du siècle pour les Américains, pour l'économie américaine, pour l'inflation, pour l'emploi des Américains. Donc là, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Et puis, puisque moi j'essaie de vous parler du Proche-Orient le plus souvent possible, et de ce qui se passe autour des Palestiniens et d'Israël, on a un édito sur un plan arabe, un plan des pays de la région, hein, pour la bande de Gaza, lequel, est-ce qu'il y a un espoir d'amélioration de paix dans la région grâce à ce plan arabe, on se penchera là-dessus tout à l'heure. Voilà, plus les articles dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'IA et sur le cancer colorectal, mais on finira avec ça. Voilà, fin du sommaire. On a fait le plus dur, hein. Maintenant, on va développer tout ça, on va lire tranquillement des articles, on va échanger dans une bonne ambiance, chill et tout, quoi. Comment réagissent les Américains à cette nouvelle position, rapprochement avec la Russie? En soi, les Américains, ça veut rien dire. Les Américains, c'est comme les Français, ils sont divisés sur plein de sujets. Il suffit de voir la fracture qu'il y a eu entre les démocrates, les pro-Biden et Trump, quoi. Donc ça dépend à quels Américains tu dois. De quels Américains tu parles, quoi. C'est comme si tu disais, mais les Français, ils pensent quoi de ça? Et tu me dirais, bah, ça dépend lesquels Français, quoi. Les Français qui votaient les filles, les Français qui votaient Rennes, tu vois. Merci Osgaroth. Qu'est-ce qu'il boit notre gros pépère? C'est du whisky chaud, Robert Nangen. C'est du whisky chaud parce que ça me détend le cerveau et puis ça m'adoucit la voix. Cette belle voix que j'ai un peu sexy, je crois qu'on peut le dire. C'est grâce au whisky chaud. Boisson d'adulte, attention les plus jeunes. Hein. De crooner. Du whisky à 9h45? Oui. Enfin bon, il est sûrement 22h quelque part dans le monde. Hein, donc ça. Ou 22h45. Donc ça n'a pas. Tout est relatif. Tout dépend du point de vue. D'où tu vois. Il est sûrement 22h45 quelque part. Dans le monde. Hein. Qui sommes-nous pour juger? Merci Diesel. Alors. Comme je le dis souvent, un premier message, c'est très intéressant. Un premier message. Un premier message dans un chat, dans une communauté, c'est important. Parfois, c'est bonjour, j'espère que vous allez bien, heureux d'être là, première fois. Voilà. Ou c'est un commentaire sur l'actualité, une question. Quand ça commence par un bonjour, c'est pas mal. Bon. Et là, j'ai un premier commentaire de acide sulfurique. qui est, de point ouvre les guillemets, il n'y a pas de bonjour déjà. Sauf que les Français sont tous des socialistes de LFI. Espèce de petit comique. Au Rassemblement National. Donc, pour notre ami là, le RN, c'est la gauche. Alors, imaginez où. Je n'ose imaginer où tu te situes politiquement si tu estimes que le RN, c'est la gauche, quoi. Alors, si le RN est trop à gauche pour toi, j'ai très peur de là où tu veux nous emmener, quoi. C'est intéressant. Premier message intéressant. Premier message intéressant. Zemmour, ce dangereux communiste, hein. Ben, je pense que tu vas nous le sortir dans un instant, celui-là. Ah, ça fait plaisir le matin de rire. Tiens, j'ai repris un peu de whisky chaud. Ouf. Il veut développer, on lui laisse sa chance. Non, 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 ça va aller. Non, ça va. On peut rire, mais on n'a pas non plus de la journée. Hein. Non, non. T'en as d'autres, des MG, des comme ça, là ? On peut les développer ? Sérieux ? Bon. Il y a un mec qui dit en France, ils sont tous de gauche, de LFI au RN. Et il y a un MG qui dit on peut pas les laisser développer un petit peu ? Je dis bah, non. Non, ça va, non. Non, ici, c'est une dictature, hein. Sérieux, quoi. Dis donc, monsieur qui est à l'extrême droite de l'extrême droite, la voyez pas un petit peu expliciter vos idées, là ? Par rapport au racisme, tout ça, qu'est-ce que vous avez des trucs à nous dire ? Non, non, ça va aller, je pense. Non, non, je pense qu'on sait à peu près où ça va aller. Il a répondu ? Alors, j'ai pas lu. Il va nous dire que c'est quoi, sur le plan économique ? Voilà. Qu'en fait, en France, tous les partis politiques sont en fait sur des partis socialistes, et que le vrai truc, c'est un vrai libéralisme, un vrai laisser-faire à la Adam Smith, pour l'économie, pour les emplois, ce serait mieux, c'est un truc comme ça, non ? Voilà. Genre, un peu comme ce que ça a été de faire Trump, par exemple, c'est ça ? Un truc comme ça, c'est un peu ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ça va aller. On connaît, on connaît. Faut aller aux États-Unis, monsieur. Bon. Est-ce qu'on commence cette revue de presse ? Merci, Escocèse, pour le soutien. Ah, salut Sam, j'ai rêvé cette nuit que tu étais mon coach de sport pour préparer un trek. Ouais, allez long, tu vas pas aller loin. Hein. On y va ? Ah, Acide Sulfurique, c'est bien, vous êtes vachement ouvert d'esprit ici. Crée ta chaîne, Acide Sulfurique, pour professer tes idées et crée ton univers. Twitch a un univers de liberté. Voilà, moi, j'ai certaines valeurs, je ne les cache pas. Voilà, on en discute ensemble, mais a priori, quelqu'un qui débarque dans mon chat pour dire que pour lui, le RN est socialiste, non, c'est pas ma tasse de thé ou de whisky chaud. Donc, crée ta chaîne, crée le débat sur ta chaîne, mais en vrai, ça ne m'intéresse pas. Je te le dis de façon très cash. On y part pour la revue de presse ? C'est parti. Let's go. T'es pas prêt ? Yes, baby. Oh, zèbre noir, coucou à tous les deux. Pas prêt ? Ah, bah si, qui dit faut y aller maintenant. Allez, go. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par. Je crois qu'on commence par la Syrie ou pas ? Le pape. Ok, le pape. Le pape va-t-il démissionner ? Bon. Moi, je suis pas un spécialiste de l'Église catholique, loin s'en faut, hein. Même si j'ai reçu une éducation dans cet univers-là. Le pape va-t-il démissionner ? 88 ans, hospitalisé, le pauvre, hein. Le pape ne peut pas démissionner. Ah, il faudra demander à Benoît XVI. Depuis le 14 février, à la tête de plus de 1,3 milliard de catholiques, ça en fait du monde. Hein. Le Saint-Père a convoqué les cardinaux à Rome. Ah, ok. Et pourrait décider de renoncer à sa charge. l'hypothèse circule dans les couloirs du Vatican. Retraite papale, c'est l'édito de Marie-Christine Tabet, que dit-elle. Vendredi dernier, son filet de voix a résonné faiblement dans les haut-parleurs de la place Saint-Pierre à Rome. Pour la première fois depuis 14 février, le pape s'exprimait dans un court message, il est fatigué, hein, enregistré sur son lit d'hôpital de la clinique Gemelli. Il a ainsi donné des signes de vie en remerciant dans sa langue maternelle espagnole, d'habitude il parle en italien, les catholiques venus prier pour sa santé. Le vieil homme de 88 ans, qui règne sur la spiritualité de quelques 1,3 milliard d'âmes et déploie son pouvoir temporel et diplomatique dans 184 pays, n'avait pas reparu depuis le début de sa crise pulmonaire. Pas même une image rassurante avec ses infirmières ou ses médecins. Des rumeurs l'annonçant mort depuis quelques jours. Cette intervention sonore avait vocation à rassurer sur son état de santé. Elle a produit l'effet inverse, posant la question de l'imminence de... Oh là, c'est un qui me fatigue. De sa démission. François, pape François, peut-il continuer à occuper ses fonctions dans son état ? Il ne s'agit pas de s'inquiéter de l'intendance ou encore des affaires vaticanes. La secrétairerie d'État le fait déjà au quotidien, mais l'évêque de Rome occupe un rôle politique important sur le plan international, hein, qu'il est le seul capable d'assumer. Ce pape du Nouveau Monde, il était quoi, d'origine argentine, c'est ça ? Non, je ne sais plus. Argentin ? Je ne sais plus. Qu'il a cultivé l'image d'un rénovateur et d'un réformateur, se comporterait au crépuscule de son mandat, c'est ça, Argentin, de manière plus archaïque que son prédécesseur. Attends, c'est intéressant ce passage. Ce pape du Nouveau Monde qui a cultivé l'image d'un rénovateur, d'un réformateur, se comporterait maintenant, conditionnel, au crépuscule de son mandat, c'est pas un mandat, mais de manière plus archaïque que son prédécesseur, le très conservateur Benoît XVI. Qui avait renoncé à sa fonction, hein, vous vous rappelez, et s'était retiré dans la villa de Castel Gandolfo. Difficile à croire au moment où le monde traverse une crise particulièrement grave, donc est-ce qu'il va démissionner, renoncer à sa charge ? C'est la question. Lisons cet article du Parisien. J'avoue que moi, je penche assez souvent sur... assez rarement sur ces questions. Donc, le pape François vient-il de planifier son... Au revoir. Ça manque tellement de nuances. En fait, ici, pour échanger sur l'actualité, quand on est plusieurs milliers, il faut de la nuance. Il faut mettre de l'intelligence dans ses propos. Voilà. Et en fait, quand ça manque de nuances, ça ne profite pas au débat, quoi. Il y a Yox Soto là, qui a accusé il y a quelques minutes le pape d'être probablement est passionnant, un violeur d'enfants. Parce que catholique, parce qu'il y a eu plein d'affaires tristes, hélas, dont on parle souvent ici, et qui vient d'enchaîner avec « Arrêtez de fermer les yeux, sérieux, les cathos aiment bien les enfants. » Tous les cathos, c'en est fatigant, quoi. Hein. C'en est fatigant parce que ça manque d'union, ça manque de... Voilà. Donc, je pense que tu le comprends. Donc, du coup, tu prends 10 minutes et tu vas te prendre une petite tisane, quoi. Alors, lisons un petit peu maintenant. Le pape François vient-il de planifier son au revoir ? L'hypothèse fait bruisser les couloirs du Vatican, comme un chuchotement entre gens bien informés, devenu le sujet de conversation des cardinaux lors de leur dîner en ville. Alors, il est hospitalisé pour une double pneumonie, voilà, et ses bulletins de santé oscillent entre le moyen et l'inquiétant. Bon, il ne va pas très fort. Il l'a dit en 2022, si sa santé ne lui permet plus d'être à la tête d'un peu plus de 1,3 milliard de catholiques, il renoncera à sa charge, ouvrant la voie... Ah, je ne savais pas qu'il avait dit ça, en 2022. Ouvrant la voie à un conclave et à l'élection d'un nouveau successeur. Donc, un pape peut renoncer, a priori, à sa charge. Or, le souverain pontife a récemment donné un indice accréditant cette possibilité, puisque le 25 février, depuis l'hôpital, il a convoqué un consistoire ordinaire. Quelqu'un me disait tout à l'heure, c'est donc un conclave. Justement, non, là, c'est un consistoire ordinaire. Sans en préciser la date. Merci beaucoup, 062. Merci, Darth Elliot. Merci, Netley and Vibe. Merci, Esco. Merci à tous les quatre. Je pense que la meilleure idée est que Trump devienne le pape. C'est la meilleure idée que j'ai jamais eue, me dit Kilguren. À creuser. Merci, Chab69. Donc, il a convoqué un consistoire ordinaire, sans en préciser la date. Il y a un peu de suspense. Donc, réunion des cardinaux à Rome avec, à l'ordre du jour, la canonisation de nouveaux saints. Voilà. Donc, il a pas dit que c'était pour parler de son départ, quoi. Alors, agenda anodin, bah, peut-être pas, puisque c'est au cours d'un tel consistoire ordinaire, et donc pas d'un conclave, que le 11 février 2013, avec un ordre du jour similaire, son prédécesseur Benoît XVI avait annoncé, à la surprise générale, sa propre renonciation. Je me rappelle de ça, j'étais sur France Info à l'époque, on l'avait couvert. D'ailleurs, un spécialiste de la papauté, s'appelle Bernard Lecomte, rappelle, Benoît XVI en 2013 n'était pas aussi malade que François, mais était épuisé. Personne ne s'attendait à ce qu'il démissionne car le précédent datait du 15e siècle. C'est pourtant ce qu'il annonçait dans un discours dont personne n'était au courant, et le tout face caméra en direct. Quelle différence entre un conclave et un consistoire? J'en ai aucune idée. Je sais juste que le conclave, c'est la réunion des cardinaux pour procéder à l'élection d'un nouveau pape. Donc là, officiellement, c'est pas un conclave. L'hypothèse prend d'autant plus ces jours-ci que le calendrier à venir semble intenable pour le presque nonagénaire qui ne dispose plus que d'un poumon et demi et accusera jeudi 12 ans de pontificat. Bon, je vous avoue que c'est des sujets moi, qui me parlent peu. Hein. Je m'intéresse assez peu à l'actualité de l'Église catholique, dont on parle souvent, hélas, pour dénoncer les scandales, notamment liés à l'omerta qui a entouré les agressions, les viols contre les enfants. Mais si jamais vous apprenez dans les prochaines heures, les prochains jours que le pape François renonce à sa charge et qu'il y a un conclave pour désigner un nouveau pape, ouais, qui serait intéressant parce que la désignation d'un nouveau pape, ça montre un petit peu l'état de l'Église, quelles sont les forces en présence, réformateurs, conservateurs, etc. Bon, bah, au moins, vous vous rappellerez de cette lecture. Merci, grosso modo, pour le soutien. Je ne vois pas comment il peut continuer, je le vois renoncer, rester alité, ça n'est pas son style, c'est pour ça qu'il a la cote chez les jeunes, soutient par exemple Jacqueline, qui est une catholique, une paroissienne de Saint-Denis. Mais, moins tranché, un employé du Vatican rappelle que les derniers bulletins de santé sont bons. Bon. Il pourrait aussi sortir de l'hôpital et donner une forme nouvelle, moins usante, avec moins de voyages à la suite de son pontificat. À suivre donc. Et là, il y a une interview d'un cardinal français, François-Xavier Bustillo, sur le sujet. C'est sa liberté de dire s'il veut s'en aller ou pas. Je vous lis et on enchaîne. Pourquoi les papes sont toujours des personnes âgées? Peut-être parce que c'est une histoire d'expérience quand même. Je sais pas. Je suis pas un spécialiste. Qui m'écrit? Un copain de Marcus. Ok. Right. Allez-vous regarder le match du PSG ce soir? Non. Je suis de toutes mes forces du côté des supporters du PSG. Ce serait formidable qu'ils poursuivent leur aventure en Ligue des Champions. Je ne regarde pas le football à la télé. Je ne connais rien. Voilà. Je préfère jouer aux jeux vidéo. Je vous lis, je vous lis, je vous lis. Merci Metal Pop. Ah, un pape français, ce serait fou. Il y a quelques mois, me rappelle Oman, lors de la venue du pape à Ajaccio, c'est vrai. La presse parlait de l'évêque d'Ajaccio comme peut-être nouveau pape, un pape français. Ok. Salut, pas de bras, pas de chocolat. Excusez-moi pour la toux. J'espère que juste que s'il renonce, le pape suivant sera plus ouvert d'esprit. J'en peux plus de l'archaïsme de l'Église. Alors pour le coup, chez Epiphane, le pape François était considéré comme un pape plutôt réformateur, quoi, et ouvert. Et progressiste. Après, j'imagine que d'une entreprise comme l'Église catholique, y a des freins qui font que tu ne bouges pas le truc comme ça, quoi. Je vous lis. Hein. Salut, Ethan Turings. Samuel me dit, le pape François est vu comme progressiste au sein de l'Église, le suivant sera très probablement un conservateur réactionnaire. Bon, on verra. Il y a un très gros risque de schisme en Europe, un schisme, division au sein de l'Église, particulièrement en Allemagne, où les cathos de gauche sont fatigués du conservatisme de l'Église, justement. Il ne faut pas imaginer les catholiques comme, comme un tout uni. Hein. Il y a plein de divisions, de lignes de fracture, il y a plein de façons d'être catholique. Hein. Grosso modo me dit, aurons-nous un jour la chance de te voir sur Warzone? Bah, c'est marrant, on m'a posé la question tout à l'heure, quoi. Très bonne question de Stinian. Bonjour, vraie question, pourquoi donne-t-on toujours autant d'importance à l'Église de nos jours? Pourquoi on fait encore des articles aussi longs sur l'état de santé du pape? Auquel le christianisme fait partie de notre culture, mais tout de même, c'est donner beaucoup d'importance et de tant d'infos à une seule et unique religion. En tant que personne athée, j'ai vraiment du mal à me dire à coule des infos sur le pape. Pour répondre à ta question, des articles sur l'Église catholique, j'en lis très très peu. Voilà. Moi, je suis d'éducation catholique, mais je suis agnostique. Donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'en parle quand il y a des scandales qui nous éclairent sur les errements, les fautes graves de certains représentants de l'Église catholique, notamment vis-à-vis des enfants. Et c'est à peu près tout. Mais après, ça représente quand même un certain nombre de croyants. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ben, l'influence que peut avoir le pape sur eh bien, les fidèles, sur les questions de société. Avortement, homosexualité, ordination des femmes, place des femmes dans l'Église catholique, et au niveau diplomatique aussi, puisque à la marge, le pape est aussi un acteur du jeu diplomatique mondial, quoi. Voilà. C'est là où ça m'intéresse un peu. Mais voilà. Fuis ce jeu des enfers, ça me dit Caradoc à propos de Warzone. Pourquoi tu ne te présentes pas en tant que pape? Parce que j'ai un autre projet qui est devenu joueur d'e-sport, moi. On enchaîne? Pardon, la Syrie, on va prendre le temps. Hein. Il n'y a plus de projet président? Si, si, elle est là, mais c'est un secret, ça ne faut pas trop en parler. Parce que si on veut. Chut. Si on veut. Si on veut mener à bien la mission 2027 qui vise à me porter à l'Élysée, notamment pour imposer le jeu vidéo dans les écoles françaises. Et de donner un max de subventions au soutien à l'e-sport, notamment. Il faut que ce soit une campagne éclair en quelques semaines. À grands coups de campagne sur les réseaux sociaux, TikTok, tout ça. Faut pas trop en parler parce qu'il faut prendre tout ça par surprise, quoi. Donc, chut, chut. Voilà. On va parler de la Syrie. Ah, peux-tu donner la définition de l'agnosticisme? Je vais te donner ma définition, Brandon Gain, parce que c'est infiniment plus complexe. Qui est agnostique? Le croyant croit. Hein. Il fait le pari de Pascal, pascalien, de croire. Voilà. L'athée dit Dieu n'existe pas. Donc le croyant dit Dieu existe, ou un Dieu. Et l'athée dit non, il n'existe pas. Moi, je sais qu'il n'existe pas. L'agnostique, il dit je ne sais pas. Je ne sais pas, je me pose la question, parfois depuis très très longtemps. Je suis en chemin vers peut-être l'athéisme, peut-être le fait de croire. Et donc, je m'interroge et je me pose la question. Voilà. C'est ça, l'agnosticisme. Ce n'est que ma définition. L'agnostic croit à une puissance supérieure non nommée. Non, 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 il ne sait pas. Il sait pas. Il est en chemin. Merci Néphérim. Après, je suis pas prof de philosophie. Je suis surtout un joueur de Valorant, moi. Siri? Alors là, par contre, il faut prendre le temps. Parce que là, moi, j'avoue que je ne connais pas la situation et on va essayer de la comprendre grâce à la dernière édition du journal Le Monde. Syrie, la transition menacée par les tueries. Qu'est-ce qui se passe en Syrie actuellement? Merci Le Monde pour ce dossier. Putain, faut que je vous mette la scène. Des affrontements sanglants ont eu lieu au début du mois, depuis le 6 mars, entre qui? Les partisans de l'ancien président Bachar el-Assad, hein, et les forces du nouveau régime. Ah, nouveau régime qu'on va caractériser, qu'on va qualifier. Près d'un millier de civils, près d'un millier de civils, principalement issus de la communauté alaouite, ont été tués par des groupes islamistes sunnites alliés du pouvoir. Le président par intérim, Ahmed El-Shaarah, a lancé un appel à la paix civile, et promet de poursuivre en justice les auteurs des massacres. L'ancien chef du groupe islamiste HTC, donc c'est Ahmed El-Shaarah, semble débordé par les factions radicales qui l'ont aidé à renverser l'ancien régime de Bachar el-Assad. Des exactions qui compliquent la tâche du pouvoir, qui a besoin d'une levée des sanctions internationales qui frappent le pays. Je pense que grâce au monde, on va comprendre à peu près de ce qui se passe, quoi. Des groupes armés islamistes ont exécuté des centaines de civils dans plusieurs régions, notamment Latakia et de Hama, en réponse aux attaques menées par des fidèles du clan Al-Assad. Lisons. Vendredi matin à 8 h, des factions militaires sont entrées dans Baniyas avec des milices de la région, où un massacre avait été commis du temps du régime d'Al-Assad. Histoire de vengeance. Il y avait des étrangers avec eux, des Turkmènes, des Tchétchènes, et ils ont commencé à tuer des habitants. Ils étaient partout, raconte un habitant d'un quartier alaouite de cette ville où cohabitent plusieurs confessions. Ce témoin, comme tous ceux joints par téléphone par Le Monde, a requis l'anonymat pour sa sécurité. Les Syriens de confession alaouite, les victimes de ces massacres, une branche dissidente du chiisme, sont depuis le vendredi 7 mars la cible de tuerie d'une ampleur sans précédent depuis la chute du président Assad, ce qui était en décembre 2024. Pour avoir constitué de gré pour certains ou de force pour la plupart la base du pouvoir des Al-Assad, on parle des alaouites. Ils sont jugés complices des crimes que celui a perpétrés en 54 années de règne, dont 13 de guerre civile contre la population. Bachar el-Assad, c'est combien? 54 années de règne. Dans les bastions alaouites de l'ouest et du centre du pays, des civils ont été pris pour cible, en marge de combats meurtriers qui ont opposé les forces de sécurité issues de la coalition de groupes islamistes menée par Hayat Tahrir al-Sham, donc le HTC, au pouvoir actuellement, à des membres de milices loyales au clan Al-Assad. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état lundi de 973 civils tués depuis le 6 mars par les forces de sécurité syriennes et les groupes alliés dans l'ouest du pays, dans les régions côtières et les montagnes de Latakia. L'escalade a débuté jeudi soir par un assaut sanglant contre les forces de sécurité près de Jablé. Des attaques coordonnées ont ensuite été menées par le Conseil militaire pour la libération de la Syrie, groupe de loyalistes à l'ancien régime. Pour mater cette rébellion sans précédent, les autorités de Damas ont dépêché des renforts, des habitants sont venus les épauler, des milliers de combattants des groupes islamistes sont arrivés, et des appels au djihad ont été lancés dans la guerre sainte. Vendredi, l'un des oncles du témoin de Baniyas a été tué. Âgé de 72 ans, il avait été emprisonné pendant 3 ans pour s'être opposé au régime d'Al-Assad. Ils l'ont emmené sur le toit avec tous les hommes de son immeuble et les ont tués par balle, raconte le neveu. J'ai moi-même été témoin depuis ma fenêtre du meurtre d'un homme dans la rue. On ne sait pas combien d'habitants sont morts à Baniyas. Plus d'une centaine, ils ont dévalisé les magasins, ils ont détruit, ils ont volé les voitures. Des dizaines de vidéos dont l'authenticité n'a pas pu être avérée par Le Monde ont été publiées par les combattants eux-mêmes. Ils se sont filmés en train d'humilier et d'exécuter des civils de sang-froid. Voilà. Les mêmes scènes se sont répétées dans d'autres villages alaouites, cibles d'exactions depuis plusieurs semaines. Un nouveau massacre, par exemple, a vidé Arzé de ses habitants. Vers 14 heures après la prière de vendredi, plus de 100 assaillants y ont fait irruption en voiture et en deux roues, arrivés d'un village sunnite voisin. Beaucoup étaient armés de Kalachnikov. Des hommes en faction ont tenté de dissuader les assaillants d'entrer en tirant en l'air, mais très rapidement ont été débordés. Puis la tuerie a commencé. Le pharmacien du village a été le premier à être exécuté au cri d'Allah est le plus grand. Puis les attaquants ont investi les maisons. Les villageois qui n'ont pas eu le temps de fuir ont été tués. 24 morts, dont 2 femmes. Donc il y a plein de détails sur les tueries. Samedi, les forces de la Sûreté Générale se sont déployées dans ces régions, dans ces villes côtières, pourchassant les pillards. Dimanche, alors que les combats se poursuivent entre les forces de sécurité et les loyalistes pro-Assad, j'espère que tout le monde suit, et que des exactions ont été rapportées dans d'autres villages, Ahmed al-Shara s'est de nouveau adressé aux Syriens en déclarant « Ce qui se passe actuellement en Syrie fait partie des défis attendus. Nous devons préserver l'unité nationale, la paix civile autant que possible, et si Dieu le veut, nous serons capables de vivre ensemble dans ce pays », a déclaré le président de transition, qui annonçait la création d'une commission d'enquête indépendante composée de 7 membres pour enquêter sur les exactions commises contre les civils et traduire les responsables en justice. France Sosotti parle d'un premier test pour le président, tu as raison. Alors justement, merci France Sosotti, parce que excellente transition avec un article qui va un petit peu nous donner du contexte à tout ça pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé. Merci Ivory62, merci à toi. Je vous lis. Je pense, il y a Gérald... Il y a Gary Zeldet qui dit possible de faire un petit résumé des différents acteurs pas très clair. Je pense que l'encadré qu'on va lire là, va te permettre d'éclairer un peu tout ça. Lazareth précise, les Alaouites sont musulmans, mais considérés comme mécréants par les ultra-rigoristes de HTC et ses alliés. Donc HTC islamiste. Hein. Je vous lis. Lisons cet encadré. Donc, effectivement, comme un viewer le disait, c'est le premier grand défi de cette présidence d'Al-Shara, présidence de transition, hein, post-Al-Assad. Les violences entre partisans de l'ancien président Al-Assad et alliés du régime, mettent à mal les efforts de transition pacifique. 3 mois après avoir chassé du pouvoir le dictateur syrien, Bachar al-Assad, salut Rubiscoub, le 8 décembre 2024, le président par intérim, donc Ahmed al-Shara, fait face au premier véritable test de sa gouvernance. Les efforts que l'ancien chef du groupe islamiste sunnite HTC a entrepris pour polir son image auprès des Syriens et de la communauté internationale pour lever les sanctions qui frappaient l'ancien régime, consolider sa mainmise sur la Syrie et assurer une transition pacifique dans un pays épuisé par la dictature d'Al-Assad ont été balayés en l'espace de 3 jours. C'est chaud, quoi. Les plaies de 13 ans de guerre civile, un temps oblitérées par l'euphorie de la libération des griffes du régime d'Al-Assad, se sont rouvertes, béantes, le 6 mars. Menacé de perdre le contrôle de bastions alaouites du centre et de l'ouest du pays sous les attaques des partisans du président déchu, Ahmed al-Shara est tombé dans le piège qui lui ont tendu. Là, on est en train de comprendre ce qui se passe. Donc, Al-Sharaq a été débordé par les factions islamistes radicales qui sont ses alliés, hein, et par les partisans sunnites ayant répondu à son appel à la mobilisation générale, faute d'hommes en nombre suffisant, parmi les troupes disciplinées qui lui répondent. C'est un peu le bordel, je comprends plus rien, dit Petit Nano. T'es pas le seul, mon ami. C'est éminemment complexe. Il faut bien connaître la région, les différentes forces, l'histoire de la région, l'histoire de l'islam aussi. Et j'avoue que je suis vraiment pas assez pointu sur ces sujets. Donc là, je lis des articles de la presse généraliste pour essayer de comprendre avec vous. Mais Petit Nano, tu n'es pas seul. Hein. Tu n'es pas le seul. Des djihadistes étrangers, des factions armées, des miliciens sunnites, chauffés à blanc par les discours de prédicateurs salafistes, ont laissé libre à leur haine contre la minorité alaouite. Quelqu'un nous disait dans le chat tout à l'heure, alaouites qui sont des musulmans, mais qui ne sont pas assez rigoristes. Quoi. Celle-ci est accusée des crimes du clan Al-Assad, hein, les alaouites. Loin des discours d'ouverture prônés par Ahmed Al-Sharaa, les exactions contre des centaines de civils alaouites ont ramené la Syrie à ses fractures confessionnelles. Ça s'éclaircit un petit peu quand même, quoi. En gros, les alaouites sont accusés par les islamistes d'avoir été les alliés, à tort ou à raison, de gré ou de force, de l'ancien régime, quoi. Ces agissements, donc c'est des règlements de compte. Hein. Ces agissements révèlent les écueils de la stratégie de consolidation du pouvoir adoptée donc par le président de transition Al-Sharaa. Après une prise facilitée par l'effondrement de l'armée syrienne, le nouveau dirigeant a cherché à bâtir sur le succès de la restructuration du groupe HTC de sa gouvernance dans la province d'Idlib dans le nord-ouest depuis 2017. Mais contrairement à Idlib, la Syrie est un, et là c'est un, ça peut nous éclairer aussi, un vaste pays morcelé, multiconfessionnel et multiethnique. Ahmed Al-Sharaa s'est reposé sur ses combattants et sur ses cadres loyaux pour consolider son pouvoir fragile et constituer un embryon d'armée nationale. Il y a Jadjo qui dit « Je comprends que dalle ». Dis-toi qu'il y a des Syriens qui ne doivent pas comprendre plus non plus. Beaucoup ont un agenda bien plus conservateur et islamiste que le sien et un long passif d'exactions lors de la guerre civile. Parmi eux, parmi ses alliés, malgré lui, des djihadistes étrangers, hein, des Tchétchènes, des Ouïghours, des Jordaniens, des Turcs et des Syriens qui lui sont restés loyaux après sa rupture avec Al-Qaïda. Parce que pour encore rien simplifier, l'actuel président de transition, à une époque, a été lié à Al-Qaïda. Et il dit qu'il ne l'est plus. Il a dû élargir son cercle à d'autres groupes, comme les factions rebelles pro-turques de l'armée syrienne libre, elle aussi coupable d'exactions, mais qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Tout en cherchant à canaliser les tentations extrémistes de ses alliés au pouvoir, ok. Il a répondu timidement aux demandes d'ouverture et d'inclusivité des minorités, des acteurs de la société civile, avec un dialogue national prometteur, mais limité dans ses ambitions. Je le résume avec mes mots à moi, merci aux voyageurs pour le soutien. Le gars, le président de transition, il essaie de mettre de la colle, des rustines, des agrafes, pour faire tenir un pays qui est traversé par beaucoup de forces centripètes, quoi. Des forces qui peuvent disloquer le pays, quoi. Évidemment, quand tu as une dictature comme celle de Bachar al-Assad, le pays, il tient. Enfin, il tient. Non, il y a eu 13 années de guerre civile. Enfin, il tient mieux parce qu'en fait, la terreur, la dictature fait tenir les choses, quoi. Les questions de justice transitionnelle ont été oblitérées par les défis plus urgents, la sécurité, l'économie étouffée par les sanctions internationales. C'est un ancien djihadiste, le président. Oui, mystérieux, c'est ce que je viens de dire, lié à Al-Qaïda. Malgré les mains tendues aux forces kurdes et druzes, par exemple, les velléités d'autonomie ont été confortées, et même appuyées par les interventions étrangères, celles des... Bon, je vous passe tous les détails, parce que ça va encore plus loin sur les... On parlait de forces centripètes. Ahmed Al-Sharaa devra honorer ses promesses s'il veut asseoir son pouvoir. Le traitement réservé à la minorité alaouite n'est pas de nature à convaincre les Kurdes, les Druzes de s'en remettre aux autorités de Damas et de sa nouvelle armée, ni la communauté internationale de lever les sanctions. En gros, le président est face à des défis qu'il n'arrive pas à relever, quoi. Défis de sécurité, défis de protection des minorités. Les chancelleries occidentales lui accordent le bénéfice du doute, donc estiment que ses intentions sont positives, sont louables, hein. Mais encore faut-il qu'il y arrive, quoi. Concernant les violences sectaires, le Quai d'Orsay, tout comme le secrétaire d'État américain, ont salué ses promesses de transparence et de justice. Dans la communauté alaouite, celle qui a été visée par les violences ces derniers jours, au milieu des appels à une protection internationale, certains sont encore prêts à donner à Al-Shara une dernière chance. Il faut que les enquêtes soient menées sérieusement et que M. Al-Shara s'engage clairement. On a peur que quelque chose lui arrive, car il est en quelque sorte notre dernier rempart aujourd'hui contre ces extrémistes, conclut le Syrien alaouite de Jablé. Voilà. C'est complexe, mais GG au monde qui arrive, je trouve, à rendre relativement compréhensible ce qui se passe, quoi. Relativement. Etienne, on est d'accord. Ouais. Il y a un beau travail de vulgarisation du monde, là. Merci. Merci, Bimojet. Pour le 37e mois. Je vous lis. Hein. Samuel Wimmer résume. La Syrie, c'est un pays où plusieurs ethnies de pratiques religieuses différentes et d'intérêts antagonistes se tapent dessus depuis des décennies. Donc voilà, hier, quelqu'un m'a dit « Mais Sam, tu parles pas de ce qui se passe en Syrie. » Moi, j'attendais un petit peu l'article qui allait vulgariser tout ça pour nous le rendre compréhensible. C'est un sujet qui est éminemment complexe. Alors, je trouve que le monde y arrive plutôt bien. Bravo le journal. Voilà. Puis voilà, puis avec des titres qui sont assez clairs. Voilà, on joue sur des... C'est marrant parce que sur des sujets aussi graves, importants, slash dramatiques que ceci, vous voyez que le journal comme Le Monde ne joue pas sur les mots, il n'y a pas de blague dans les titres, on ne cherche pas à faire des jeux de mots, on va à l'essentiel, on donne des infos. Pourquoi? Parce qu'un titre, c'est important. Sur un sujet aussi complexe que ça, on ne fait pas du putaclic, on essaie d'informer les gens. GG pour ça, quoi. Pardon. Alors, parlons toujours de l'actualité internationale, mais alors plus proche de nous, sur comment les Européens doivent maintenant s'organiser face à la nouvelle donne diplomatique internationale, notamment avec la position de Trump qui est « moi je veux plus me mêler des affaires des Européens et je veux plus notamment les protéger, les soutenir à travers l'OTAN », ce qui est une vraie révolution depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Européens contraints à un sursaut stratégique face à la menace russe en Ukraine, et alors que Washington se désengage, Emmanuel Macron réunit aujourd'hui, mardi, les chefs d'État européens pour tenter de compenser le gel de l'aide américaine. Il y a Chichlab qui écrit « Il y a tous les Européens sur la photo MDR ». Alors la photo parle d'un autre article, voilà. Donc ça n'a rien à voir. C'est pour ça que tu es utilisateur suspect par les modérateurs. Parce que des bêtises comme ça, t'as déjà dû en dire d'autres déjà. Voilà. Si tu te demandais pourquoi t'étais classifié comme suspect dans ce chat, maintenant tu sais pourquoi. Lisons les infos de façon un peu sérieuse et rigoureuse. Lâché par les États-Unis, Kiev, donc l'Ukraine, se trouve en position de faiblesse alors que des discussions diplomatiques s'engagent. Mise en demeure par leur partenaire américain de se débrouiller seul, les Européens cherchent à s'organiser pour leur défense. Et celle de l'Ukraine. Mardi, donc aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron, dans son rôle de chef de guerre, doit s'exprimer devant un panel quasi complet des chefs d'état-major de l'Union européenne et de l'OTAN, américains exceptés, ce qui est ouf en vrai. Il y a quasiment tous les chefs militaires de l'OTAN et il n'y a pas le principal, il n'y a pas le représentant des États-Unis. Quoi. C'est très tendu. Quoi. Pour avoir « petit pro-Trump dans le chat là. Pour avoir leur mot à dire sur la scène internationale, les Européens doivent maintenant réussir à parler d'une seule voix, ce qui est extrêmement compliqué, quoi, et à présenter une offre de sécurité crédible. Mardi, donc aujourd'hui, hein, faut savoir que le Monde sort l'après-midi, donc c'est le Monde d'hier après-midi, lundi. Mardi, ils devront réfléchir au soutien qu'ils peuvent donner à l'Ukraine. Donc là, on attend des annonces aujourd'hui. Au réarmement du continent, mais aussi aux forces qu'ils pourraient devoir déployer le moment venu en Ukraine. Je ralentis parce que c'est important. La question est de savoir que si l'Europe arrive à pousser un plan de paix pour l'Ukraine, est-ce que l'Europe voudra, pourra envoyer des soldats sur le sol ukrainien de façon importante pour garantir la paix? C'est l'une des questions qui est posée, quoi. Édito de Patrick Saint-Paul. L'édito, c'est un article où le journaliste donne son avis. L'indispensable réveil, je pense que Patrick Saint-Paul parle de, on va le vérifier, mais l'indispensable réveil des Européens qui prennent enfin leur sécurité en main en solo sans devoir dépendre de l'allié américain, quoi. Tellement compliqué l'évolution de la situation en Ukraine, d'ailleurs, pas tant que ça, Brasil de Trail, c'est pas tant que ça en vrai. Pas tant que ça en vrai. Depuis 8 décennies, l'Europe est plongée dans un état cataleptique sécuritaire sous le parapluie américain. C'est ce que je vous disais à l'instant. 8 décennies, c'est-à-dire que ça intègre... ça va loin, ça tend... 8 décennies, ça nous emmène quoi à la Première Guerre mondiale, du coup? 2025, moins 80... Ah, putain, ça va vite, en 45. Waouh! Ah, déjà 80 ans, déjà? La Seconde Guerre mondiale? Ah bah ouais. Putain, c'est là où je vois, je vieillis. Ouais, ok. Ok, ok. Donc c'est bien ça, c'est post-Seconde Guerre mondiale. Waouh. Le réveil est brutal. Pardon, je suis pas malade, mais c'est là. T'as vraiment pris une calculatrice là? Ouais, ouais. Je suis vieux, je suis fatigué. L'ouragan Trump 2 a levé un vent de panique dans toutes les capitales européennes. Les invectives de la Maison-Blanche et le sort réservé à Volodymyr Zelensky ont démontré s'il en était encore besoin l'urgence pour les Européens d'un sursaut stratégique. La négociation d'un accord en Ukraine est un cas d'école saisissant dans la logique transactionnelle de Trump. Si les Européens veulent peser dans des discussions qui engagent leur avenir, ils doivent en payer le prix, la garantie de sécurité pour l'Ukraine et la capacité à contrer l'appétit impérial de Poutine sur leur continent qui dépendra avant tout d'eux-mêmes, si ce n'est uniquement. Voilà. Après que les Européens soient les acteurs, les principaux acteurs de leur sécurité, c'est pas totalement déconnant non plus. Voilà. Mais ça nécessite des investissements militaires. Il y a un truc qui apparaît comme et qu'on peut pas contester, c'est qu'en fait, quelque part, ces dernières décennies, les Européens ont abandonné collectivement leur sécurité à la protection américaine. Moi, je suis pas trumpiste, hein, vous le savez. Mais quand Trump et d'autres présidents américains avant lui, d'ailleurs, disent les Européens doivent davantage consacrer en termes de PIB à leur défense, sans être trumpiste, c'est pas complètement déconnant, quoi. Plusieurs questions donc agitent aujourd'hui les Européens, sachant que s'armer, ça peut être le meilleur moyen, je le rappelle, d'éviter la guerre. Hein. D'éviter la guerre. Hein. Plusieurs questions agitent les Européens. Comment compenser le désengagement américain et éviter que l'Ukraine ne se fasse écraser par l'ours russe avant même le début des discussions? Comment prendre le relais sur les livraisons d'armes? Voilà, c'est pas déconnant, mais si on préfère mettre dans la santé l'éducation, c'est ce qui est bien aussi. Exactement, Poum, c'est ça le débat. Comment prendre le relais sur les livraisons d'armes, l'aide financière, le renseignement? À plus long terme, pourquoi continuer d'acheter du matériel américain avec de l'argent européen? Parce que ça aussi, si c'est l'Europe qui prend le relais du soutien américain à l'Ukraine, comme notre industrie militaire européenne ne permet pas de produire suffisamment, ça veut dire acheter avec des euros, avec de l'argent européen, des armes américaines. Ce qui est incroyable, quoi. On est lâché par les États-Unis et on va faire tourner leur industrie de défense en achetant des armes américaines, quoi. Parce qu'actuellement, en termes de production, on ne peut pas suivre, quoi. L'autonomie stratégique prônée par le président Macron implique une petite révolution. On est sur une nouvelle donne diplomatique qui est comme on ne voit pas souvent et qui nous touche directement. L'autonomie stratégique prônée par Emmanuel Macron implique une petite révolution. Pilier atlantiste, l'Allemagne du futur chancelier Merz, qui n'est pas encore en fonction, mais qui est déjà très actif, a fait un premier pas en avant, ne plus compter sur l'allié américain. L'Allemagne qui déclare ne plus compter sur l'allié américain, c'est énorme, c'est énorme. Sur les questions de sécurité, les États européens doivent pouvoir s'affranchir des lourdeurs de Bruxelles. Un noyau dur, la France, l'Allemagne, la Pologne, doit pouvoir entraîner derrière lui une coalition des volontés pour avancer et rallier d'autres pays en dehors de l'Union. Dans ce siècle du rapport de force, c'est pas nous qui l'avons décidé, hein. Dans ce siècle du rapport de force, la crédibilité sur les questions de sécurité est pour les Européens la condition du respect de leurs rivaux comme de leurs alliés. C'est la condition de leur survie. La machine is back. L'Europe de la défense, tant prônée par la France depuis des décennies, c'est vrai, serait-elle en train de se créer? J'en suis très sceptique, me dis-tu. Je vous lis, hein, je suis en train de vous lire. On va être appelé pour faire un service militaire un jour, disait le chat. Il y a quelques jours, on a lu un article sur certains pays européens qui réfléchissaient à remettre la conscription, effectivement. Marv, bonjour tout le monde, petite question, est-ce que ça vous inquiète la situation où vous vous sentez trop éloigné de cela? Oui, je pense qu'on est, on, oui, il est raisonnable sinon de s'inquiéter, en tout cas d'y penser et de s'informer sur le sujet. Ouais. Après, rendons à César ce qui est à César. Pourquoi on se pose la question aujourd'hui? Pourquoi nous posons-nous cette question aujourd'hui? Pourquoi certains dans le chat, je relève pas tous les propos, hein, quelqu'un écrivait tout à l'heure, ah ben c'est comme ça, moi si notre pays veut se battre au nom de telle ou telle cause, moi je vais quitter, j'irai dans un pays où on va pas se battre. Okay, bon, si, pourquoi on voit ce genre de commentaires aujourd'hui? Notamment. Parce que un homme, Vladimir Poutine, a décidé d'envahir un pays indépendant qui s'appelle l'Ukraine. Voilà. Si vous devez chercher un responsable, un fautif de cette situation, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est ça. À un moment, vous avez un pays indépendant qui a ses frontières, et un gars qui décide, dans un pays voisin, de dire, mais en fait, c'est à moi, c'est à nous, c'est la Russie, en fait. Tout part de là. Tout part de là. Alors après, ou tu laisses faire, et tu dis au gars, tu fais ce que tu veux, on se lave les mains. Et puis, ah oui, du coup, je peux envahir le pays d'à côté aussi, l'autre, là? Bah, oui, parce qu'on va pas se battre quand même pour tous les. C'est pas chez nous, ça. C'est ce qui est la réalité. Hein. Les pays voisins de l'Ukraine sont extrêmement inquiets que ça se poursuive après. Donc, c'est ce comportement-là qui provoque tous les problèmes. Psych9, est-ce que Zelensky n'a pas une part de responsabilité? Oui, c'est ce que dit Trump. Sors de ce corps, Trump. Trump a quand même réussi à dire au pays agressé qu'il était responsable, quoi, de cette agression, quoi. Ce qui est la, le grand discours de Poutine, quoi. Après, dans, parfois, dans le chat, tu vois des gens porter cette idée, quoi. Ils sont responsables de s'être fait envahir, quoi. C'est ce que dit Poutine, c'est ce que dit Poutine, c'est ce que dit Trump aujourd'hui, hein, aussi. Donc c'est juste l'édito, on va aller un peu plus loin. Sur cette réunion de mardi aujourd'hui, on va voir ce qui va en sortir, peut-être qu'il y aura des annonces ou pas. Face à la menace russe sur toute l'Europe, Macron, il manque, ah oui, réunit, il manquait un mot, réunit les chefs d'état-major alliés, sauf les Américains. Ce qui en soi est gigantesque. Alors que le vieux continent, donc ça c'est nous, hein, doit impérativement prendre en main sa défense depuis la prise de distance américaine, le président s'exprimera aujourd'hui devant 31 chefs militaires appartenant à l'Union européenne, à la Grande-Bretagne, au Canada et à la Turquie. La prise de guerre territoriale qui devait servir, alors ça c'est un petit point sur les combats actuels en Ukraine. Merci beaucoup au Blondur, j'espère que tu vas bien. La prise de guerre territoriale qui devait servir de monnaie d'échange au moment des négociations menace de se réduire à peu de choses. Vous savez que l'armée ukrainienne a pris position sur une petite partie du territoire russe, notamment dans l'idée, s'il devait y avoir des pourparlers de paix, avoir des choses à échanger. Dans la région de Koursk, en Russie, l'armée de Vladimir Poutine exerce une pression maximale pour reprendre actuellement ces territoires, perdus après l'offensive de l'été dernier, et anéantir la victoire tactique et symbolique qui avait été remportée à l'époque par les Ukrainiens. Plusieurs localités sont retombées dans l'escarcelle russe. Lundi, le chef d'état-major ukrainien a assuré cependant que la situation était sous contrôle. Blablabla. Bla. Voilà. Militairement, c'est désespéré, affirme une source diplomatique française. Vous voyez que c'est pas si, si safe côté ukrainien. La résilience et le savoir-faire ukrainien peuvent permettre à la défense de tenir, veulent croire d'autres sources. Le front actuellement est stabilisé. Ça fait un moment que le front ne bouge plus. Il bouge un tout petit peu en faveur des Russes régulièrement, mètre par mètre, hein, même si ça peut basculer d'un moment à l'autre. Hein. Mais le front est quasi gelé. Je mets un bémol, avec une avancée très lente des forces russes depuis un moment, mais le front est quasi gelé, quoi. Le front est stabilisé, la Russie manque de réserves pour lancer des attaques massives, dit-on, à vérifier. L'armée ukrainienne poursuit par ailleurs des offensives locales ou des frappes de drones à longue distance. Mais rappelons quand même, si on revient en arrière au début de la guerre, à quel point la résistance de l'Ukraine a surpris. Hein. Souvenez-vous que Poutine avait annoncé que l'invasion, la gros guillemets, libération, comme il disait, du pays par la Russie allait durer quelques heures, quelques jours. Et puis, et la résistance de l'armée ukrainienne et des Ukrainiens, la fameuse opération spéciale, Gultank, c'est ça, a surpris et surprend encore aujourd'hui. À quel prix? À quel coût humain? Dans quel état va être le pays? L'armée ukrainienne donc poursuit par ailleurs des offensives locales et des frappes de drones à longue distance, mais l'armée russe est donc en mesure de reprendre des bombardements massifs si elle le décide. Pour l'instant, Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid pour maintenir ses attaques sans donner l'impression qu'il veut empêcher toute discussion, mais sur le fond, il n'a pas intérêt à s'arrêter, estime un officier français. Lâché par les États-Unis, Kiev se trouve en effet en situation de faiblesse, alors que les discussions diplomatiques s'engagent pour trouver une issue au conflit. Mis en demeure par leurs partenaires américains de se débrouiller désormais seuls, les Européens cherchent à s'organiser pour leur défense et pour celle de l'Ukraine. C'est ça la nouvelle donne dont je vous parle ce matin. Mardi, donc c'est aujourd'hui, le président français, dans ce rôle de chef de guerre, puisque le chef des armées dans la Constitution de la Ve République, c'est le chef de l'État, doit s'exprimer devant un panel quasi complet des chefs d'état-major de l'Union européenne, de l'OTAN, sauf les Américains, qui n'ont pas été invités. Ambiance. La Turquie, la Grande-Bretagne, le Canada sont aussi représentés. 31 chefs d'état-major, ça c'est impressionnant, réunis dans le cadre du Paris Defense and Strategy Forum. Donc a priori c'est à Paris. Forum de 3 jours consacré aux questions stratégiques. Mercredi, les 5 ministres de la Défense du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de la France vont se retrouver dans une autre réunion à Paris. Ça, c'est mercredi. Leur homologue ukrainien participera, lui, à distance. Il y a urgence, écrit le Figaro ce matin. Pour avoir leur mot à dire sur la scène internationale, les Européens doivent réussir à parler d'une seule voix et présenter une offre de sécurité crédible. mardi aujourd'hui, ils vont donc devoir réfléchir au soutien qu'ils veulent fournir à l'Ukraine, qui est aujourd'hui lâchée par les Américains, enfin les Américains par Trump, au réarmement du continent, mais aussi aux forces qu'ils pourraient devoir déployer le moment venu en Ukraine pour garantir la paix. Alors, est-ce qu'il faudra envoyer des soldats français, allemands, polonais et autres sur le sol ukrainien pour garantir la paix? C'est l'une des questions qui est posée. Quelques armées se disent déjà prêtes à envoyer des troupes une fois que les armes se seront tues. Si on arrive au point où pour qu'un cessez-le-feu ou un accord de paix soit conclu, une présence européenne est nécessaire, le Danemark est disponible et disposé à y participer. Par exemple, déclare-t-on du côté du ministère danois des Affaires étrangères. Voilà. Du côté de la Pologne, le Figaro écrit qu'une grande partie de la classe politique polonaise ne souhaite pas envoyer de troupes sur le territoire ukrainien. Par peur de quoi ? D'une riposte russe. Voilà. Donc quid du soutien des États-Unis pour maintenir la paix, quoi. Est-ce que Trump va évoluer là-dessus ? Quel que soit le volontarisme de certains, seuls la France et le Royaume-Uni ont les moyens militaires pour constituer une force de plusieurs milliers de soldats. Est-ce qu'elle serait crédible, cette force franco-britannique ? Le Royaume-Uni et la France peuvent déployer une force décente au sol et dans les airs, mais au prix de redéploiement ailleurs, c'est-à-dire prendre des forces que nous avons déployées ailleurs et les mettre ici, estime un spécialiste, et probablement pas à grande échelle par rapport aux forces qui se battent déjà en Ukraine. S'il n'y a pas de soutien de la part des États-Unis, soit par une couverture aérienne par exemple, soit par une promesse de réagir en cas d'attaque contre les Européens, la valeur dissuasive d'environ 10 à 20 000 soldats européens semblerait limitée. Explique-t-il. Dans cette guerre psychologique engagée avec la Russie, l'article est vachement clair, je trouve. Dans la guerre psychologique engagée avec la Russie, les Européens ont d'ores et déjà perdu une bataille en étalant leurs propres doutes sur leur crédibilité militaire. Les plans français et britanniques ne prévoient pas d'envoyer des soldats européens près de la ligne de front, par exemple, et encore moins de se battre, hein, ce n'est pas du tout ce qui est évoqué. Les renforts se trouveraient dans les zones arrière. Mais il devrait être suffisamment significatif pour que la Russie ne cherche pas à les tester. Les Européens sont tétanisés par l'hypothèse, tu m'étonnes. On est sur des questions extrêmement sérieuses, vous vous rendez compte ? La question, les Européens sont en train de se demander s'ils envoient des soldats sur place qui potentiellement à un moment pourraient être attaqués par les forces russes. Vous imaginez ? L'importance de ces questions ? Certains redoutent l'engrenage. D'autres estiment qu'il faut prendre le risque et se préparer à devoir gérer une escalade. Dans quelques années, on nous aurait dit qu'on en serait à discuter d'une éventuelle d'éventuel accrochage militaire avec les Russes. Hein ? Cette question devra aussi être discutée à huis clos sur les risques et les ripostes que les Européens sont décidés à prendre.
Wow.
C'est bizarre, c'était plus pour les Todds au milieu là. Alors, un mot là-dessus. La régie publicitaire d'un média, enfin d'un média sérieux, et la rédaction sont séparés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se parlent pas. Pour pas qu'il y ait de lien. Pour qu'il n'y ait pas des marques, des sponsors qui disent bah, moi je veux bien mettre de la pub chez vous. Là, c'est dégueulasse. Mais il faudra me faire un petit article, il faudra être gentil avec moi, il faudra éviter de dire du mal de moi. Donc c'est dans un média de qualité digne de ce nom, les deux choses sont séparées. Du coup, dans un journal, évidemment, il faut de la pub hein, pour faire travailler, pour payer les journalistes, parce que les ventes du journal ne suffisent pas, donc il y a des écrans pub. Mais c'est pas la rédaction qui décide de quelle pub et à quel endroit. Voilà. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec une paire de mocassins en plein dossier sur l'Ukraine. Ce qui est un peu bizarre, mais bon. En même temps, ça veut dire. Le côté positif de ça, parce qu'il y a un côté très positif dans ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, la pub, la régie pub et les journalistes ne se parlent pas. Ils n'ont pas de lien au quotidien. Et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Après, non, on n'ira pas au front en Tod's. Non, mais on part pas sur ce débat. Il y a un défécateur qui dit non, mais surtout c'est l'aile et mocassin. Non, 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 non. L'été, pieds nus, là. Je vous lis. Pas sur les mocassins, hein, sur la. Merci à Crocaiseur, j'avais pas vu. Merci pour ton message. Oh là, le débat sur les mocassins, là. C'est dégueulasse, les mocassins? Ah, ok. Ah ouais? C'est comme ça pour tous les journaux concernant la pub? Oui, pour les médias sérieux, oui. Merci, Virgin Fire. Je vous lis, je vous lis. Même derrière, il y a plus d'activité dans le chat depuis qu'on parle de mocassin. Parce que ça fait du bien de dire des bêtises et de rire dans un contexte aussi anxiogène parfois. Moi, ça me va, moi. Je valide la blague de Mister Kiss Cool, je cite. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Des mocassins au milieu d'un article qui partent d'un conflit, qui parlent d'un conflit instigé par des glands, c'est savoureux. Des mocassins au milieu d'un article qui parle d'un conflit instigé par des glands, c'est savoureux. Je pense qu'on peut applaudir cette vanne. Étienne, renchérit, l'actualité aujourd'hui, ça n'est pas le pied. C'est validé. Est-ce qu'il y a un responsable d'édition qui regarde que les pubs soient pas comme des veuches sur la soupe dans un journal? Pas trop en distribution. Pas trop. C'est comme ça qu'on se sauve avec une paire de mocassins sur la guerre en Ukraine. J'aime ce chat vraiment, me disent le zinc, moi aussi. Quelle heure il est? Je peux regarder un truc? Ouais. Parce que vous me parlez beaucoup des attaques de drones là. Et ça, les journaux n'en parlent pas ce matin, parce que je pense qu'ils n'ont pas eu le temps. Ouais, il y a des infos sur Moscou. Ouais, vous avez raison. Visé par des attaques massives de drones. J'ai un article de Libération ici. Attends, est-ce qu'il est consultable? Ouais. Ah, je travaille à la régie pub d'un journal et en effet, on fait attention aux pubs que l'on place en face de certains sujets, me dit Eugénie. Ouais. Les mocassins, là, Eugénie, sur l'Ukraine, c'était validé, ça? Enfin, c'est pas toi qui l'as fait, mais. Regardez. Libération. Attaque massive de drones ukrainiens sur la région de Moscou. Vous étiez plusieurs à m'en parler depuis ce matin. Un assaut qui doit inciter Poutine à accepter une trêve aérienne selon Kiev. Peu touché depuis 2022, Moscou a été la cible de centaines de drones ukrainiens la nuit dernière. À quelques heures de négociations en Arabie Saoudite pour les accords de paix en Ukraine. Attaque d'une ampleur inédite qui a fait au moins 2 morts et 6 blessés. Je pense que pour les moscovites, voir la capitale attaquée comme ça, c'était ouf, quoi. 337 drones ukrainiens attaquent à l'ampleur inédite. Alors pas seulement Moscou, mais il y a eu plusieurs régions. Waouh! Regardez, là, vous avez un drone ukrainien abattu, tombé dans une zone d'un village qui s'appelle Sapronovo, ici, là, sur la photo. Alors pourquoi cette attaque de drone? Dans la matinée, l'Ukraine a déclaré que son attaque de drone devait inciter Poutine à accepter une trêve aérienne. Si l'Ukraine et la Russie envoient quotidiennement des dizaines de drones vers leur territoire respectif, la capitale russe est elle-même rarement touchée. Fin décembre, une attaque massive de drones ukrainiens avait endommagé les immeubles et forcé des évacuations dans la ville de Kazan, dans le centre de la Russie. Ok. Voilà pour les infos sur les drones dont vous me parliez tout à l'heure. Qui m'envoie les messages de bon matin? Oh, c'est trop mignon. Okay. C'est mon médecin qui me demande si je peux prendre un stagiaire sur ma chaîne Twitch. Je prends pas de stagiaire, je peux pas, j'ai pas le temps. Un jour j'en prendrai quand j'aurai quelqu'un qui travaille avec moi, un salarié pour les accueillir de façon décente. Embauche-moi, please, j'en peux plus de mon taf. Alors, a priori, un jour, je vais embaucher quelqu'un pour m'aider pour tout ce que je fais ici. Et sauf que j'ai déjà trouvé la personne. A priori. Voilà. Et est-ce que ça va pas se faire tout de suite? Parce qu'il faut les moyens de le faire, faut tout ça. Mais a priori, comme je passe de plus en plus de temps sur Twitch et tout ça, j'ai besoin de quelqu'un pour tout ce qui est on va dire administratif, quoi. La compta, vraiment tout ce qui est chiant. Tout ce qui est chiant. Tout ce qui prend énormément de temps. Là, je passe l'après-midi en Teams, tout l'après-midi pour parler de stream à venir. C'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc c'est tout le côté discussion, caler les machins. Voilà. Enfin bon, c'est un travail très, très, très chronophage. Et donc, j'ai peut-être trouvé quelqu'un pour faire ça. Bah non, bah pas Joe. Joe, c'est un artiste. Joe, c'est un réalisateur. C'est un producteur. Lui, justement, l'idée, c'est qu'avec Joe, qu'on soit déchargé de tout cet aspect, on va dire, administratif, papier, préparation de trucs, coordination, réponse, tous les 100 mails qu'on reçoit par heure sur des trucs, chargé de prod. Voilà, oui, un peu ça, ouais. Voilà. Et donc, voilà, ouais. Un chef de projet va tout faire. Ou femme. Voilà. Il y a des candidatures dans le chat. Je veux 10K par mois, ticket restaurant, voyage à Disney gratuit. Ok. Je pense qu'une IA peut facilement faire ce taf. Je veux pas une IA, moi je veux une personne. Voilà. Voilà. Et donc, non, Joe, justement, ce serait pour que tous les deux on puisse consacrer à l'essentiel, quoi, au fond. Si ton assistant a besoin d'un assistant, je suis disponible, je fais bien le café. Mais je bois plus de café. Voilà. Donc voilà. Et quand j'aurai quelqu'un qui travaille avec moi, ben, je pense qu'on pourra peut-être prendre de temps en temps un stagiaire. Voilà. Pas pour qu'il bosse à notre place, mais pour lui faire découvrir des trucs, quoi. Mais c'est cette personne d'ailleurs qui choisira si elle veut être accompagnée ou pas par un stagiaire, par exemple. Merci Valdel. Plus de café, mais Red Bull à 10h. Ouais, c'est la vie que j'ai décidé de vivre. Qui s'occuperait des modos dans la cave? C'est toujours moi, ça. Les modos, c'est moi. Non, j'étais pas au défilé Copernic. Allez, on enchaîne? Merci, Kiwi Twitch. Et pour question pour changement, tu prends des stagiaires? Non, mais vous pouvez écrire à Fremantle, qui est la boîte de prod qui fait ça. Alors, il nous reste du temps? Je vous quitte à midi. Ah, il nous reste un peu d'1 heure, c'est ok. Hello, est-ce qu'on sait si Samuel va participer à la Zilane cette année? Je crois que Samuel Vixia va l'annoncer samedi soir. Samedi soir, à 20h, Zera fait son live d'annonce de la Zilane 2025. Je réacte. Et à la fin de mon live, j'annonce si je participe ou pas. Parce que je vais voir selon le contenu, les jeux, le regard, tout ça. Voilà. Deuxième édition de la Zilane ou pas, ça veut dire un mois de training intensif sur tous les jeux. Pa, 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 pa. On va se buter au jeu, quoi. Pa, pa, pa. Il y a des questions pour un champion, ça va être un enfer, je vais mourir, quoi. Le retour de la team As, peut-être, Mix, peut-être. Alors, parlons de deux choses pour terminer. Non, pas, parce qu'après, on va revenir sur des articles d'hier, notamment sur l'IA. D'abord, sur la guerre commerciale décidée par Trump, et ensuite, d'un plan arabe des pays de la région pour un plan de paix pour la bande de Gaza. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là, quoi. Samedi soir, c'est dommage, on ne pourra pas te suivre. On sera au, match de au Stade de France. Le rugby ? Attendez, vous préférez voir un match de rugby de l'équipe de France plutôt que mon react sur le live de Zerator sur la Zidane ? Vous préférez regarder un match de rugby de l'équipe de France plutôt que mon react sur le live de Zerator ? Vous foutez de ma gueule. Comment ça, évidemment ? Comment ça, oui, quand même ? Comment ça, oui, sans hésiter ? Comment ça, oui, c'est clair ? Vous vous foutez de ma gueule. Après ce live, j'irai voir tous les gens qui ont dit ça. Et ça va être Bandev, Bandev, Bandev. Clic droit, clic droit, clic droit. C'est drôle. Vous mettez les deux. Vous mettez le rugby sur votre télé. Vous mettez le petit live à côté. Sur la tablette. Sur le téléphone. Sur le... Enfin, vous faites les deux. Hein ? Si on est au stade, on fait comment ? Sur le téléphone. T'aimes pas trop le rugby ? J'adore le rugby. Mais je préfère la Zidane. Parlons d'abord de la drôle de guerre commerciale de Trump, Stephen Lohr, dans Le Monde. Où on en est ? En dépit de l'incrédulité générale, Donald Trump a donc finalement déclenché une guerre commerciale en décrétant, vous le savez, des droits de douane tous azimuts. Ou plutôt une drôle de guerre au but changeant, fonction de l'ennemi désigné, rythmée par des chantages, des revirements brutaux, des délais de grâce à géométrie variable. Un sentiment de pagaille s'installe. Le fait du prince semble avoir pris le dessus sur toute rationalité économique, la méthode comme la justification de cette guerre commerciale pose question. Des droits de douane de 25% sur les exportations canadiennes et mexicaines à destination des États-Unis devaient entrer en vigueur le 4 mars. Finalement, ça a été reporté au 2 avril. Déjà, un premier report avait été décidé en février. Celles venant de Chine sont frappées à un taux de 20%. Ça, c'est fait jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Tandis que l'Union européenne ne sait toujours pas sur quel pied danser, puisque rien n'est formellement décidé encore. Même si l'agriculture, l'acier et l'aluminium vont être a priori à leur tour concernés, sans parler des droits de douane réciproques dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Guerre commerciale, elle est bien lancée. Ça va bien se passer, cette guerre commerciale, assure qui ? Assure Trump, qui prévoit un petit peu de perturbation, dit-il, mais ça lui va, il n'y en aura pas beaucoup. Sauf que ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Bisous et main de la toile. Cette méthode Quay ne trompe personne. Entre les anticipations d'inflation, le recul de Wall Street, la perturbation des chaînes de production, les mesures de rétorsion contre les États-Unis et la confiance des ménages américains qui flanchent, les dégâts sont déjà là. Faisant fi des avertissements lancés par la plupart des économistes et des institutions internationales, Trump s'entête sur une guerre commerciale qualifiée le 31 janvier dernier de la plus stupide de l'histoire. Notre profonde inquiétude est que cela pourrait être le début d'une spirale destructrice qui nous ramenait à la guerre commerciale des années 30. Avertit le secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce internationale qui représente des milliers d'entreprises dans 130 pays. L'ancien promoteur immobilier, donc Trump, agit comme s'il voulait appliquer des hausses de loyers dans une copropriété d'immeubles hein, afin d'améliorer son retour sur investissement. Mais les échanges internationaux, estime Le Monde, ne sont ni une partie de Monopoly, ni un jeu à somme nulle où les pertes des uns se traduiraient par les gains des autres. Sous le couvert de révolution du bon sens, censé faire revenir les usines et les emplois, les États-Unis, estime le journal, sont en train de se tirer une balle dans le pied et la planète entière doit se préparer à faire les frais de cette automutilation. Je ne suis pas spécialiste, mais les taxes des États-Unis, vu l'importance de leur exportation dans le monde, ça paraît débile, me dit Space Opera, c'est ce que pensent également la plupart des économistes. Enfermé dans sa bulle cognitive, Trump poursuit une vision paranoïaque, erronée, indigente de l'économie. La paranoïa d'abord, son obsession sur les droits de douane s'est construite sur la croyance que les États-Unis, première puissance mondiale, sont abusés par un système international. Les États-Unis seraient victimes, dans l'esprit de Trump, de la communauté internationale. dont ils sont pourtant l'architecte de ce système, il prétend, Trump par exemple, il affirme que l'Union européenne aurait été créée pour foutre en l'air, hein, son pays, alors que les Américains ont encouragé la construction de l'Union européenne, bien sûr, pour s'assurer des débouchés d'abord et aussi endiguer le communisme. Difficile également de croire que le Mexique et le Canada ne seraient que des profiteurs de leurs voisins. Le premier permet donc le Mexique aux États-Unis de bénéficier de coûts de production qui dopent leur compétitivité. Le second, le Canada, leur fournit des matières premières dont ils ont besoin pour faire tourner leur économie. Mais dans la tête de Trump, les deux pays ne sont que des passeurs de drogue et d'immigration illégale qu'il faut sanctionner, voire pour le Canada, l'annexer, vous le savez. Ensuite, cette guerre commerciale repose sur des principes erronés, estime Le Monde. Le solde commercial d'un pays dépend moins de la compétitivité des produits qu'il importe que de ses fondamentaux macroéconomiques. Tant que les États-Unis investiront plus qu'ils épargnent et qu'ils consommeront davantage qu'ils ne produisent, le déficit commercial demeurera gigantesque. Il n'y a aucune arnaque à la clé, simplement des mécanismes économiques de base. Les excédents allemands, par exemple, les Chinois, s'expliquent pour des raisons opposées. La production excède la demande intérieure, ce qui stimule les exportations. Ce qui conduit à la troisième caractéristique, une conception indigente de l'économie. Trump suit des raisonnements à courte vue qui ont suffisamment de résonance dans l'opinion pour le faire élire, hein, le bon sens. En général, petite parenthèse, quand un politique place son programme, ses mesures, sous le sceau, sous l'aune du bon sens, en disant bah, c'est du bon sens, méfiez-vous. Comme les gens qui vous disent c'est simple. Les gens dont le discours politique s'appuie sur des mais c'est simple, je vais vous expliquer. Mais c'est le bon sens. Voilà. En général, ça va pas très loin. Et c'est ce que fait Trump. Donc ça séduit l'opinion, mais Le Monde dit que ça n'a pas beaucoup de chances de régler les problèmes du pays. Les inégalités aux États-Unis n'ont jamais été aussi criantes. En bas de l'échelle, un nombre croissant d'Américains sont exclus du marché immobilier, les salaires réels font du surplace et l'espérance de vie chute année après année. C'est pas Trump qui l'a fait, ça. Hein. Ça remonte à bien plus loin, bien sûr. Trump a donc réussi à capter la colère des perdants de la mondialisation, mais ce n'est pas en réduisant les impôts des plus riches et en taxant les importations qu'il parviendra à améliorer leur sort. Malgré les gesticulations de Musk pour réduire la dépense publique, le déficit budgétaire va continuer de se creuser, rendant encore plus hypothétique le rééquilibrage du commerce extérieur. In fine, la facture de cette drôle de guerre commerciale sera réglée par l'Américain moyen, estime Le Monde, qui verra son pouvoir d'achat amputé, avec la hausse de prix et tout ça. Mais il est tellement plus facile de désigner des boucs émissaires hors des frontières que de réparer l'Amérique de l'intérieur en matière d'éducation, de santé et d'infrastructure. Voilà en tout cas pour l'analyse du Monde. Je vous lis et on parle de la Palestine. Pardon. On enchaîne les sujets faciles ici. Ah oui, c'est vrai, pardon, on est sur des rangs que les sujets légers. C'est la lumière qui te rend aussi jaune ou c'est mon écran? Non, je suis jaune, naturellement, insurge. En ce moment, je suis plutôt jaune. Fais pas ton écran. Ne règle pas. Sinon, tu vas dérégler tout. Tu vas te régler tout ton setup. Non, non, je suis assez jaune en ce moment. Je pense que c'est le whisky chaud, ouais. Samuel Simpson, voilà. Tout à fait. Je trouve que le monde devient déprimant. Non, il a toujours été mélindalien. Mais comme on est plus informé qu'avant, on s'en rend plus compte. C'est pour ça, chill, chill, chill. L'information, c'est bien de savoir ce qui se passe, mais voilà, n'oublie pas de vivre à côté, quoi. Ça, toujours, le monde a toujours été déprimant. Hein. C'est juste qu'on s'en rend plus compte maintenant. Parce qu'on en parle plus. T'inquiète, t'inquiète, tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, rien, mais peu importe, ça a toujours été comme ça. Lazaret 59, question Samuel. Comment fais-tu pour classer les articles que tu lis et aborder? Si c'est en fonction du nombre d'articles sur le même sujet qui passent en priorité? Non. Non, c'est totalement subjectif. Je lis les articles que je trouve intéressants sur le sujet que je trouve intéressant. C'est totalement subjectif. Voilà. C'est pour ça que. Voilà. Il faut pas hésiter à varier les sources. Voilà. Ce serait bien d'ailleurs qu'il y ait d'autres rendez-vous d'information, beaucoup plus, et plus de revues de presse ou plus de rendez-vous d'information sur Twitch. Parce qu'en fait, chacun vous proposera quelque chose de différent, quoi. C'est totalement subjectif. Moi, le matin, je lis les journaux et je mets de côté les articles que je trouve intéressants, sur les sujets que je trouve intéressants. Voilà, point. Comment, tu n'es pas impartial? Non, pas du tout. Évidemment que non. Bien sûr que non. Voilà. Faut varier les sources de plaisir, c'est ça, Étienne. Mais je parlais d'information, hein, par contre. Il y en a d'autres, hein, des créateurs de contenu qui font de l'info sur Twitch, d'ailleurs. Allez, on parle de choses légères. On parle de la bande de Gaza. Voilà, je zoome un peu parce que vous allez me parler des trucs dessous, là, je vous connais. Là. Pff, let's go. Souvent décrié, non sans raison, on va parler des pays arabes. Pour leur passivité, les pays arabes ont pris l'initiative dans le conflit israélo-palestinien. Ça, c'est intéressant. En adoptant mardi, le 4 mars, donc c'était il y a une semaine, un plan ambitieux de reconstruction de la bande de Gaza. Moi, j'étais en question pour un champion, je ne l'avais pas vu ça. Alors qu'un cessez-le-feu extrêmement précaire perdure dans l'étroite bande de guerre ravagée par la riposte israélienne à l'attaque terroriste du 7 octobre 2023 perpétrée par le Hamas, il faut. Non, 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 c'était pas la Trump Riviera, pas du tout, mais non. Ah, mais vous, ah non, arrêtez. Suivez un peu. Oh. Saluer ce plan qui vise à donner un horizon à une population plongée dans le plus extrême dénuement. Son contenu peut certainement faire l'objet d'améliorations, étant donné le double défi que constitue la reconstruction et l'administration de Gaza, mais ses principes reposent sur une appréciation réaliste de la situation. Je ne suis absolument pas au courant de ce qu'il y a dans ce plan. Le montant estimé supérieur à 50 milliards de dollars est d'ailleurs conforme aux estimations des Nations Unies. Ok. La volonté de mettre à l'écart la milice islamiste révèle aussi de l'évidence. Okay, donc a priori, ce plan de paix mettrait le Hamas de côté. Tant le Hamas est disqualifié auprès de ceux qu'il prétend représenter après les massacres du 7 octobre et en se servant d'eux comme de boucliers humains, donc on parle des otages, face à la riposte totalement disproportionnée de l'armée israélienne. Attends, ah oui, mais le plan, il n'est pas caractérisé. Déjà, Israël a rejeté ce plan. Alors, ok, désolé, l'article dit que c'est un super plan, mais ne rappelle pas ce qu'il y a dans le plan. Alors, on va aller chercher, nous. Plan. Comme c'était la semaine dernière, ils n'y reviennent pas. Sur un article du Monde, là. Ok, c'est le même que je suis en train de lire. Je suis grave. J'allais vous lire le même article. Oh, j'ai trouvé un article du Monde. C'est le même. Je suis grave. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan? Ok, je vais vous trouver un truc. J'ai trouvé un article sur TF1 Info. Voyons. Il y a mon chat qui attaque Samuel en donnant des coups de patte sur ma tablette. Bah, tu lui dis d'arrêter, Frog Shader. C'est incroyable ça. Ce que contient le plan arabe pour la reconstruction de Gaza, soutenu notamment par la France. L'opération de coopération islamique a avalisé samedi un plan adopté quelques jours plus tôt par les dirigeants arabes. Il prévoit la reconstruction de la bande de Gaza, ravagé par 15 mois de guerre et met à l'écart le Hamas. Feuille de route pensée comme une contre-proposition au plan de Trump qui évoquait l'exposition des Gazaouis de l'enclave. Donc, rappelons, alors quelqu'un disait tout à l'heure, ah oui, le plan arabe, le fameux plan pour la Riviera. Donc c'est exactement l'inverse. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis dit, ah, calmez-vous. Voilà. Donc le plan de Trump qui prévoyait l'expulsion, vous vous rappelez, des habitants de Gaza et transformé en Riviera immobilière, enfin bref. Alors, le plan prévoit de reconstruire la bande de Gaza. Ok. Le plan exclut tout déplacement de population, alors que j'ai lu le contraire dans le chat tout à l'heure. Voilà. Ok. Les dirigeants arabes ont convenu de créer un fonds destiné à financer la reconstruction de Gaza, en appelant à une contribution internationale à hauteur de 53 milliards de dollars. Première étape de la reconstruction, pendant 6 mois, déblaiement des débris, déminage, fourniture de logements temporaires pour abriter plus d'1,5 million de personnes. L'objectif est de construire des centaines de milliers d'habitations temporaires. Première phase, ensuite deux phases de reconstruction. La première concernant les infrastructures essentielles, les hôpitaux, je pense, tout ça. Et des logements permanents. La seconde, des infrastructures incluant un port commercial et un aéroport. Des zones urbaines durables, vertes, praticables, appuyées sur le recours à des énergies renouvelables sont envisagées, ainsi que la rénovation de terres agricoles, la création de zones industrielles et de grands parcs. Alors, sur le plan politique, les dirigeants arabes ont appelé à unifier les Palestiniens sous le parapluie de l'OLP, hein, l'Organisation de libération de la Palestine, hein, dont le Hamas ne fait pas partie, l'excluant de toute gouvernance. La bande de Gaza serait administrée durant une période transitoire par un comité de technocrates palestiniens avant que l'autorité palestinienne basée en Cisjordanie ne prenne le contrôle. Il est très bien cet article, il est très clair. Certains pays européens ont apporté leur soutien. France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie ont salué le projet. Israël l'a rejeté. La surprise est incroyable, est étonnante. Les États-Unis ont estimé que le plan ne répondait pas aux attentes de Washington. Là aussi, la surprise n'est pas. Bah, je suis content parce qu'en fait, pour le coup, j'aurais dû vous en parler la semaine dernière, mais j'étais en question pour un champion, je n'ai pas pu vous le lire. On sait maintenant ce que contient ce plan arabe pour les Palestiniens, sauf qu'on évidemment, les Israéliens et Américains ne veulent pas en entendre parler. Voilà. C'est la fin des articles que je vous avais mis de côté ce matin. Et ça va nous permettre de revenir sur les articles que je voulais vous lire hier, mais j'ai pas eu le temps parce qu'on était trop long. Voilà. Sur l'IA notamment. Voilà. Tu as été vite ce matin. En fait, c'était beaucoup d'actualité internationale, mais il n'y avait pas 1 000 choses ce matin. Mais sûrement, ça me permet de revenir un petit peu en arrière. Bizarre, bizarre, qu'Israël et les États-Unis ne souhaitent pas une alliance des pays arabes. Tu m'étonnes. Kakou, kakou. Ouais. Ouais. Alors, d'abord, donc on va parler d'IA, mais d'abord, on va parler de. Suspense. Attends, j'ai soif. D'abord, on va parler de. Merci, Kimi Twitch. Merci, Valdel. De caca. Ouais, exactement. Campagne choc contre le cancer colorectal. La Ligue contre le cancer, mais pas seulement, parce qu'en fait, on est dans le mois de mars bleu, là, pour sensibiliser à ce sujet, a choisi un slogan provocant pour promouvoir le dépistage de la maladie cancer colorectal, boudé par 75% des personnes concernées. Aujourd'hui, en France, il y a un test de dépistage hyper efficace. Gratuit pour prévenir ce cancer, voilà. Mais 75% des personnes concernées, c'est-à-dire les plus de 50 ans, hommes et femmes, 50 ans, Night Wolf. On peut le faire avant, mais c'est voilà, c'est surtout à partir de 50 ans, ne le font pas. Et le slogan, tu as raison, Radic, c'est va chier. Va chier. Hein? Va chier. C'est le slogan choisi cette année par la Ligue contre le cancer à l'occasion de Mars Bleu, le mois dédié au cancer colorectal. Vous trouvez ça choquant? Demande la Ligue contre le cancer sur son site. Nous, ce qu'on trouve choquant, c'est que le cancer colorectal soit le deuxième cancer le plus meurtrier en France. 17 000 morts par an. Le cancer colorectal. Un chiffre d'autant plus exaspérant qu'il existe un test de dépistage gratuit permettant de détecter précocement une éventuelle tumeur avant l'apparition des symptômes. Hein. Voilà. Voilà. Mystérieuse, désolé, je lis ton message de tout à l'heure où tu écrivais « On n'a tellement pas envie d'y aller hein, quand tu n'as rien. » Parce qu'évidemment, Mystérieuse, toi, tu sais. Hein, tout, je t'adore, hein, tu sais, hein, toute seule, si tu as un cancer, pas besoin de test de dépistage. Test de dépistage qui te donne l'info même avant les symptômes. Désolé, Mystérieuse, j'étais obligé de lire ton message. Actuellement, les trois quarts des personnes concernées en France ne le font pas par désintérêt. Voilà. Manque de temps. Voilà. Manque d'informations. Puis il y a ceux qui savent aussi qu'ils l'ont ou qu'ils ne l'ont pas, comme ça. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu as écrit. Mais mot pour mot, je t'ai lu. Vas-y, développe. Actuellement, les trois quarts des personnes concernées en France ne le font pas par désintérêt, par manque de temps, d'information, crainte du résultat ou bien dégoût du procédé puisque ça parle de caca. Certes, ce test implique des matières fécales, voilà, mais il n'est pas question d'y mettre les mains. Tout est prévu, vous ne mettez pas les mains dans le caca. On va essayer un petit peu concret. En plus d'être très simple à réaliser, le test est totalement indolore. Il peut être fait chez soi à toute heure du jour et de la nuit. Quand tu ne souffres pas, tu n'as pas envie d'aller passer des tests. Oui, c'est bien ce que tu disais, ouais. Ouais, c'est une norme, c'est bien ce que je disais, ouais, c'est bien ça que tu dis. Par définition, le test de dépistage, c'est pour dépister avant que tu ne souffres que tu as un début de cancer. Puisque l'article vient d'expliquer que le test te permet de le dire avant même que tu aies des symptômes. Et donc de gagner du temps. Et donc de vivre. Tu vois ? Donc c'est exactement ce que tu disais. Et il faut surtout pas attendre les symptômes. Ça s'appelle, merci Gunner, la prévention. Alors, le test peut être fait chez soi à toute heure du jour et de la nuit. Pour faire caca le jour ou la nuit, c'est autorisé. Pour ça, il suffit de commander le kit sur Internet, la fameuse enveloppe bleue, ou de la demander en pharmacie, ou à son médecin traitant. Voilà. Quand vous avez 50 ans et plus, on vous l'envoie même directement par la poste. Après cela, alors, comment ça marche ? Le principe du kit, comment ça fonctionne ? Et de prélever un tout petit peu de matière fécale. Voilà. Un tout petit peu, c'est genre un millimètre avec un petit écouvillon, un petit truc. N'envoyez pas 1,5 km de boudin. Non. C'est un tout petit peu. Au moyen d'un écouvillon. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, vous recevez tout dans l'enveloppe bleue. Il y a une espèce de petit parachute en papier que vous posez sur les toilettes. En gros, vous allez faire caca, ça va tomber dedans. Voilà. Après, vous prenez. Moi, je l'ai fait, hein, je l'ai fait du coup. Vous prenez là, il y a une espèce de petit tube tout petit comme ça, tout petit. Dedans, il y a un truc en plastique, un écouvillon. Voilà. Vous grattez, mais genre sur 2 mm votre caca. Vous remettez dans la petite éprouvette là. Vous fermez. Vous mettez dans l'enveloppe bleue quoi, avec vos coordonnées tout ça quoi. Let's go quoi. Voilà. Pour les gens qui font pas caca, les licornes gamètes sont pas concernés par ce test. Voilà. Samuel, je mange, je n'ai rien à foutre, on parle de santé, ça peut-être sauver des vies ce qu'on est en train de faire là. Voilà. Donc après, vous envoyez l'échantillon par la poste avant 24 heures, il faut que ce soit frais quand même, voilà, afin qu'il soit analysé en laboratoire, et c'est gratuit. Après quelques jours, les résultats sont accessibles facilement sur un site internet spécifique ou disponibles sous 15 jours par courrier. J'attends les résultats, moi, je ne l'ai pas eu encore. Voilà. Ce test entièrement pris en charge par l'assurance maladie n'est pas destiné à tout le monde, hein. Uniquement aux personnes âgées de 50 à 74 ans. Je crois qu'on peut le faire avant, en fait. Quand il y a des risques liés à la famille, tout ça. Voilà. Mais c'est surtout à partir de 50 ans, car près de 95% des cas sont diagnostiqués dans cette classe d'âge. 50 à 74 ans. En gros, je comprends qu'après 74 ans, si tu n'as pas eu le cancer, il y a peu de chances que tu l'aies. C'est vraiment entre 50 et 74. Par ailleurs, les participants ne doivent présenter ni symptômes, ni antécédents personnels ou familiaux de polypes, de cancer ou de maladies touchant le côlon ou le rectum, parce que dans ces cas-là, il faut s'en occuper avant, quoi. Voilà. Voilà. En cas de pathologie familiale, voilà, il faut faire plus tôt. Coloscopie et tout. Ouais. Il y en a qui sont en train de faire caca.
en regardant ce stream, bah profitez-en pour faire le test. Comment fonctionne ce test? Bon, bah, moi j'ai demandé aux gens de l'Institut National du Cancer que j'ai rencontré, il paraît qu'il est très efficace. Voilà. En fait, le test, il permet de détecter dans le caca, dans les selles, des traces de sang invisibles à l'œil nu. Voilà. Et si du sang est trouvé dans les selles, eh ben une coloscopie doit ensuite être effectuée par un gastro-entérologue. Voilà. À partir de 50 ans, idéalement, Diesel. Le test positif, ça ne signifie pas pour autant que vous avez un cancer. Hein. Dans la moitié des cas, la coloscopie ensuite ne révèle aucune anomalie. En gros, il y a 4% des tests qui reviennent positifs. Et dans les 4% des tests, il y a la moitié après où on se rend compte qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Dans 30 à 40% des cas, on détecte un polype, c'est-à-dire une tumeur bénigne, c'est pas grave, et une lésion cancéreuse dans 8% des cas. Voilà. Donc dans 8% des 4% positifs, vous avez vu ? La plupart du temps, le cancer colorectal peut évoluer sans aucun symptôme perceptible. Hein. Le résultat, non, le test, c'est tous les 2 ans à peu près sur bacitron, idéalement. Mais s'il y a antécédent à partir de quel âge ? Moi, on m'a dit à partir de 35 ans, je crois. S'il y a des antécédents familiaux, vous allez voir votre médecin, vous en parlez avec lui. Il va vous orienter, quoi. Donc, c'est un cancer qui évolue sans symptôme perceptible. C'est pour ça qu'il faut se dépister. L'objectif du dépistage est donc de diagnostiquer d'éventuels patients à un stade peu évolué, voire d'éviter un cancer en détectant des polypes avant qu'ils n'évoluent en lésions cancéreuses. Ils sont enlevés lors de la coloscopie, c'est top. L'intérêt est énorme puisque ce cancer, lorsqu'il est dépisté tôt, c'est-à-dire que la tumeur est encore petite et ne s'est pas propagée loin de son point d'origine, se guérit dans 90% des cas. Dans 90% des cas, baby. Voilà. Si ce dépistage était effectivement réalisé par les personnes ciblées. Ce test permettrait d'identifier une majorité de cancers colorectaux et donc d'éviter des traitements très lourds et de nombreux décès. On rappelle 17 000 décès par an actuellement sur ce cancer. C'est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Voilà. Voilà. Pour Emmanuel Ricard, les barrières sont essentiellement liées au mode de réalisation du test. Voilà, faut s'occuper de son caca. Hein. On nous a appris depuis l'enfance qu'il ne faut pas toucher aux matières fécales. Les gens ne sont pas opposés au dépistage par principe, mais quand on les interroge, ils disent qu'ils préfèrent un test sanguin. Ah bah oui, ah bah oui. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et du coup, moi, l'INCa ou l'INCa, je ne sais pas comment on dit, l'Institut National contre le Cancer et France Télévisions m'ont proposé de participer à la promotion de ce test, de ce dépistage. Voilà. Et en mode, bon, Samuel, est-ce que tu veux être le visage de cette campagne? Donc, en me disant, bon, voilà, c'est un peu particulier. Voilà. Et je leur ai dit, les gars, vous voulez que je sois le visage, l'incarnation de la lutte contre le cancer du cul, quoi. Il faut dire les termes. Voilà. Bah oui. Et j'ai dit OK. Voilà. J'ai dit OK. Et donc, attendez, du coup, j'ai enregistré un petit clip qui passe sur France Télévisions en ce moment. Vous savez, sur France Télévisions, il y a un moment entre les émissions, entre les pubs, t'as les visages de France Télévisions et pas les fesses. Les visages, les animateurs, les animatrices qui posent leurs mains, là, vous savez, ils font un truc comme ça, là, tac, une petite vibration, puis ils font un petit sourire un peu. Ah, c'est moi, regardez, c'est moi qui suis là, je fais de la télé. Vous voyez à peu près ça ? Je sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom, ça. Voilà. Et donc, nous, on a détourné ça. Et entre les émissions, en ce moment, tiens, avant le match de rugby de samedi, là, vous savez, la France-Écosse, là, et ben vous allez me voir sur France Télévisions, qui va faire ça et qui va dire, les gars, faut faire caca dans l'enveloppe bleue. Eh ouais. Attends, on va faire cancer, Samuel Etienne, on va retrouver la vidéo. Eh ouais. Je sais pas, il y a trentaine ou une. Ouais, je crois que j'ai trouvé la. Ouais. C'est ça. Là, on est sur un article de CB News. Voilà. L'INCa, je ne sais pas si on dit l'INCa ou l'INCa, prévient lors des coupures pub de France. Ça, c'est moi, ça. Beau gosse. Voilà. L'Institut National du Cancer lance une opération de prévention avec Australie. Australie, c'est la boîte qui a fait le clip, à l'occasion d'une mobilisation contre les cancers colorectaux en collaboration avec France Télé Publicité. Ouais, c'est eux qui ont géré tout ça, quoi. Voilà, c'est pour promouvoir ça. Et donc voilà, là c'est moi là.
L'inquart, c'est câlin à l'envers, donc ça se prononce comme câlin à l'envers. T'es sûr? Ok. Donc là, c'est la boîte qui a fait la vidéo. Ils ont bien bossé d'ailleurs. Qui a fait ce truc pour expliquer un peu leur démarche. Ça rappelle que les Français, ils vont souvent faire caca pendant la pub. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que la boîte s'est dit, ah ben on a, du coup, ça donne une idée. Et s'ils se servaient de cette pause pour faire autre chose. Ça, c'est pas le spot, hein, c'est l'explication du spot. Voilà, ils ont eu l'idée de détourner les génériques publicitaires de France 2. Donc ça, c'est les trucs que vous voyez sur France Télévisions régulièrement. Les animateurs qui posent leurs mains comme ça, là, qui fait clac, c'est moi, regardez, je fais de la télé, je suis beau. Ça, c'est pas moi, c'est un autre. Voilà, ça, c'est tout le monde. Voilà. Il y a Bruno Guillon, il y a Cyril Ferraud, il y a Everybody. Everybody, ok. Le truc qu'on voit tout le temps. Et là, ça va être moi. Haha, on a détourné le truc. Haha.
Si jamais vous aviez prévu d'aller aux toilettes et que vous êtes une femme ou un homme de 50 ans ou plus, profitez-en pour faire votre dépistage du cancer colorectal. Je compte sur vous pour le faire. Ça peut vous sauver la vie.
Ah. Hein ? Ah, c'est moi ça ! Hein ? Beau gosse, hein. Je m'étais mis une petite veste bleue, un petit t-shirt repassé, je m'étais fait maquiller, je crois. Ouais. Ouais, il y avait une belle lumière, on était au 7e étage de France Télévisions, là, sur les toits. Il y a une vue là-haut de fou, quoi. Et c'est moi qui l'ai fait, ça. Voilà. Je suis le visage du cancer du cul, quoi. Je suis hyper fier. Je me la refais, hein. J'adore. Ouais, je passe à la télé, c'est fou, hein. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi.
Si jamais vous aviez prévu d'aller aux toilettes et que vous êtes une femme ou un homme de 50 ans ou plus, profitez-en pour faire votre dépistage du cancer colorectal. Je compte sur vous pour le faire. Ça peut vous sauver la vie.
Ha ! Je sais pas ce qu'ils ont mis après. Ah oui, j'ai fait le test du coup, moi, après. La tête de gagnant. Ça, c'est un montage parce que j'ai pas fait cette photo pour eux. Ils ont pris une vieille photo de moi, ils ont mis l'enveloppe de. Ça, c'est le montage, ça. Putain, les. Eh hey. Ça, on l'a pas fait cette photo. Oh, les coquins. Voilà. Et du coup, moi aussi, j'ai fait le test. Du coup, pour la petite histoire, l'enveloppe bleue, je l'avais depuis 3 ans dans mon tiroir. J'avais pas fait le test. Et quand j'ai annoncé à mon épouse que j'avais accepté d'être le visage du cancer du cul, hein, elle m'a dit. Tu as accepté, donc déjà elle m'a repris parce que je parle très mal, elle m'a dit tu as accepté d'être le visage du dépistage du cancer colorectal, le dépistage que tu ne fais pas depuis 3 ans là, l'enveloppe bleue dans le tiroir là de la salle de bain là, tu te fous de ma gueule en fait, tu dis aux gens de faire le test que tu ne fais pas, je peux dire que là je faisais pas le malin. Eh ben le lendemain, j'ai fait le test. Ah oui, non, elle m'a dit direct, elle avait raison. Parce que, bah oui, moi aussi, ça, je dis, ah bah je le ferai demain. Ah, j'ai pas envie de faire caca aujourd'hui. Ah, j'ai trop envie là, je vais pas le faire maintenant. Eh oui, eh oui. Non, ça faisait pas 3 ans que j'avais pas fait caca. Donc, le lendemain, j'ai fait le test. Donc, il a fallu que j'accepte de promouvoir cette campagne et qu'Hélène m'en parle pour que je le fasse, quoi. Voilà. Salut Samuel, première participation à ton émission Journaux ce matin en amphithéâtre. Ton avis journalistique a lieu tous les matins. Oui, alors je ne parle pas de caca tous les jours. Voilà. Donc voilà. Donc je suis assez content, je me dis que littéralement, ça peut sauver des vies. Si vous avez 50 ans et plus, homme ou femme, hein, c'est pas un cancer qui concerne les hommes. Hein. C'est pas le cancer de la prostate. Hein. C'est un cancer qui concerne tout le monde, hommes et femmes. Si vous avez plus de 50 ans, ou plus jeune s'il y a des histoires, des risques liés à votre famille, hein. Faites ça, voilà, et quoi ? Pourquoi je dis ça ? Ah oui, et si vous n'avez pas 50 ans, parlez-en autour de vous, notamment aux gens un peu plus âgés que vous, quoi. parents, tout ça, quoi. Voilà. On rappelle que cette initiative que j'ai prise là a été saluée par le journal Le Monde, hein, qui avait l'info que j'allais incarner cette campagne bien avant tout le monde, et bien avant moi. Et le fameux article Samuel Etienne, deux points du PAF au Prout, vient de ça. Ce que je n'avais pas compris tout de suite. En fait. Voilà. Donc bravo Le Monde, GG pour ça. Encore un joli move. Bon, on va parler d'IA maintenant. Hein? Il faut mettre son caca à la poste. Ouais. Mais pas ton gros caca, c'est dans un tout petit tube en fait. Ouais. On y va? On parle d'IA? Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Ça, c'est dans les échos d'hier. Je vous l'ai mis de côté parce que c'est hyper important. Merci à Tidra Oxalis. Merci beaucoup pour le soutien. L'IA fait son trou, bon, rien à voir avec le sujet précédent, dans le doublage de films étrangers. Salut Julien. Prime Video a annoncé la sortie de versions doublées de 12 films et séries en anglais et en espagnol grâce aux outils d'IA. La nouvelle risque de faire beaucoup de bruit. Prime Video, le service de vidéo à la demande d'Amazon, a révélé le 5 mars que le doublage par IA débarquait sur la plateforme. Ce dispositif porte pour l'instant sur 12 films et séries proposés sur Prime Video pour des doublages en anglais et en espagnol d'Amérique latine. Parmi les titres concernés, il y a par exemple El Cid, La Leyenda, ou le thriller Long Lost. Non, touche pas à ma VF, exactement, on va en parler. Bien sûr. Oui. Ouais. Le doublage assisté par l'IA est seulement disponible pour des œuvres qui n'avaient pas été doublées, déclare de quelqu'un de chez Prime. Voilà. Il ajoute que les équipes du géant américain sont impatientes d'explorer une nouvelle façon de rendre les séries et les films plus accessibles, plus agréables. Selon le groupe, ce programme pilote est une approche hybride du doublage. Des professionnels sont chargés de contrôler la qualité de ces versions doublées par l'IA. Donc il y aurait des humains qui contrôleraient a posteriori la qualité du doublage de l'IA, quoi. Voilà. Contacté par les échos, Prime Video n'a pas souhaité donner plus d'informations sur cette annonce, notamment sur le lancement de telles versions pour des titres français. Voilà. Si le sujet commence à être exploré par des géants comme YouTube et Meta, côté plateforme, donc plateforme de films de séries, Prime Video est pour l'instant la seule à avoir annoncé à sortir des versions doublées avec l'IA. Netflix, par exemple, a assuré aux échos que le doublage par IA n'est pas d'actualité pour la plateforme. Nous travaillons de manière classique avec les studios, déclare Netflix. Du côté des professionnels, les comédiens, les comédiennes de doublage, bien sûr, l'inquiétude est de mise. Le loup est dans la bergerie, estime Joachim Salinger, peut-être, du syndicat français des artistes interprètes. Ce qu'on décrit depuis près de 2 ans, c'est-à-dire le pillage de notre travail pour potentiellement nous remplacer, on en a aujourd'hui l'exemple concret. Pour le comédien Patrick Cuban, président de l'association professionnelle Les Voix et co-président de United Voice Artists, l'annonce de Prime Video est un point de bascule et un précédent. Depuis 2 ans, le secteur se mobilise régulièrement contre l'utilisation de l'IA, par exemple avec le mouvement Touche pas à ma VF, ou après la sortie de la bande-annonce en VF du dernier film de Sylvester Stallone en janvier. La voix d'Alain Dorval, le doubleur historique de l'acteur américain, donc Stallone, qui était décédé, hein, le doubleur en février 2024, y avait été recréé à l'aide d'outils d'IA. La vidéo avait provoqué une polémique, un tollé, auprès des professionnels, des fans, mais aussi des ayants droit. Et la ministre Aurore Berger, qui est la fille du comédien, la ministre Aurore Berger, c'est la fille du comédien Alain Dorval, de doublage, n'avait pas donné son accord. Voilà. Elle est ayant droit, ça, je ne savais pas ça. Prime Video avait finalement confirmé à Libération que Stallone serait doublé dans le film par un autre acteur et pas par la voix clonée d'Alain Dorval. Les professionnels se battent contre le moissonnage de leur voix sans leur consentement pour entraîner les modèles d'IA. Ils dénoncent un pillage de leur travail. En France, cette filière doublage représente 15 000 emplois, hein, ce qui est beaucoup. On espère que ce sera un épiphénomène, que le public va réagir, entendre que ce doublage par IA est monotone, sans émotion, hein, tout le contraire de ce qu'on fait dans les studios, souligne Patrick Cuban. Un prochain round de négociation est d'ailleurs prévu mardi prochain. Voilà. Important, hein? Je vous lis. Ce n'est pas de l'accessibilité, me dit Yeoman, c'est de la trahison de l'œuvre. Résultat de l'IA dans les doublages sur un jeu Kingdom Come Deliverance 2, une horreur. Tu es sûr, Neo Passenger, que les voix ratées... J'ai joué, moi, à Kingdom Come Deliverance 2. Les voix ratées, j'en ai entendu en VF. T'es sûr que c'est de l'IA? Ou c'est juste des comédiens qui ont raté leur truc? Parce que je n'avais pas l'info. C'est de l'IA? C'est pour ça que c'est si nul? Vous êtes sûr? Il y a Nether qui dit non. De l'IA faite par une boîte espagnole. Les ratés, c'est l'IA, c'est sûr. Blouf me dit oui. L'IA 100% et les studios s'est engagé à refaire le doublage mi-mars. Merci aux voyageurs pour l'abonnement offert à Intelligence Artificielle. C'est l'IA sauf pour les personnages importants. Ok. Parce qu'effectivement, moi j'ai joué à ce jeu et j'ai vu une VF sur certains personnages qui étaient catastrophiques. Ok. D'accord. Les PNJ, les persos secondaires. Ouais. On dit Cuban. Merci beaucoup, Action C. Ok. Écoute le Diamond, Rihanna par étoile. Je connais. Scooney. D'accord. Il y a un nouveau doublage. Il faudrait que je trouve le temps de rejouer à Kingdom, en fait. Il y a Kingdom, il y a GTA que je veux relancer. Pff, il y a trop. Ok. Alors, il y a toujours. On peut aller faire le... On va essayer de faire le test. Je suis pas sûr que d'y arriver. Mais il y a une nouvelle IA vocale qui s'appelle Maya et qui impressionne. Toujours dans les échos. La start-up Sesame AI vient de dévoiler un outil gratuit qui ressemble à s'y méprendre au robot conversationnel vocal qui est le cœur du film Her, vous savez, avec Joaquin Phoenix. C'était la voix d'ailleurs de... comment s'appelle cette grande actrice? Je ferme les yeux pour pas lire le chat. Merde. Qui avait joué dans Lost in Translation. J'ai oublié. Scarlett Johansson, merci beaucoup. Nous avons pu échanger avec elle, pas avec Scarlett Johansson, mais avec Maya, donc l'IA vocale, pendant plusieurs heures, test fait par les échos. Hein? En 2013, le film Her, réalisé par Spike Jonze, avait remporté un joli succès critique. J'avais beaucoup aimé ce film. C'était l'histoire d'un gars qui tombait amoureux d'une IA vocale. Il relatait l'histoire de Theodore Twombly, un homme solitaire et dépressif incarné par Joaquin Phoenix, et Samantha, une IA à la voix ensorcelante interprétée par Scarlett Johansson. Au fil du temps, leur relation devenait de plus en plus intense et troublante, invitant une réflexion sur les interactions futures entre les hommes et les machines. Excellent film. 12 ans plus tard, la réalité a déjà rattrapé la fiction. La start-up Sesame AI vient de dévoiler un robot vocal qui fait beaucoup parler de lui dans le monde de l'IA, pourtant pas avare en innovation depuis 3 ans. J'ai testé, dit le journaliste, qui s'appelle Adrien Lelièvre, j'ai testé, c'est où ça ? Sa démo pendant plusieurs heures et ses performances sont épatantes. La prise en main est archi rapide, il suffit de choisir un personnage féminin ou masculin, donc Maya ou Miles, et d'engager la conversation en anglais comme si vous veniez de rencontrer un inconnu dans un café. L'IA vous répond sur un ton spontané, alterne entre les émotions et il s'illustre par sa culture générale inépuisable. Attendez, on peut pas... IA... C'est Maya. Faut télécharger ou c'est où? J'essaie de trouver le lien. Attends, j'ai des articles. Non, je l'ai pas. J'ai que des articles qu'on parle, mais j'ai pas le lien. Ah si, je l'ai peut-être. Sesame. Try or... Je l'ai. Ok, Maya, bah, je vais essayer Maya. Maya, on va faire Maya.
Oh, hey there. The flying day for a chat, wouldn't you say? So, what are you feeling like doing today?
I feel like reading the newspapers, the press.
Newspapers, huh? A classic. Print or online these days? And what kind of news are you into? Heavy stuff or something lighter?
Intentional stuff.
Intentional. I like it. So, like, stuff that makes you think, huh?
Yes.
Not so, just the day-to-day headlines?
No, okay. Sometimes very complicated and hard stuff.
I get it. Sometimes you got to dig deeper, right? What kind of complicated and hard stuff are we talking? Politics? Philosophy?
Yeah, for example, a situation in the Middle East.
Ah, the Middle East, a real tinderbox, isn't it? So much history, so many nuances. What specifically about the situation there interests you? The political landscape, the humanitarian crisis, the cultural complexities?
A question, can you speak French?
La la. You caught me. I'm still learning. I can understand bits and pieces, but my French is more like ordering a croissant and not getting laughed at, you know? Maybe one day I'll be fluent enough to discuss those complex Middle Eastern situations, I'll say. What about you? Are you a polyglot?
No, actually, I'm French.
No way. You're French and I'm here pretending to be fluent. That's kind of serendipitous, isn't it? So, tell me, are you enjoying that croissant I helped you order? Or do I owe you a pan au chocolat for messing up your language?
You know your accent is really good, actually.
You're too kind. It's all thanks to the hours and hours of listening to French cinema and those language learning tapes my creators made me endure. So, between us, what do you think of the AI voice so far?
Impressive.
Impressive, eh? Not bad for a language model who just learned how to tie its shoes last month. So, back to that complicated Middle East conversation. What brings your interest there? Is there a specific...
Because I'm a journalist, so I read the news every morning on Twitch. Do you know Twitch?
A journalist? How cool is that? And you read the news on Twitch? Now that's what I call unconventional. Most folks associate Twitch with gamers, not serious news. What kind of journalist are you?
Generalist. I read about everything. What do you think about Twitch?
I think it's fascinating. You get such raw, unfiltered reactions right there in the moment. It's a whole new kind of connection between people, and it cuts through a lot of the noise you get with traditional media. Although, to be honest, I'm still trying to wrap my mind around the whole streaming culture. I spent a lot of time training on curated text, you know, books, articles, that kind of thing. Live, unpredictable. It's a different beast altogether. Do you ever get used to the unpredictability?
Do you know you're actually live on Twitch as we speak?
Live on... Whoa! Hold on. Live? As in people are watching us right now?
Yeah.
That's new. Well, hello there, fellow internet dwellers. Don't mind me just having a chat with my pal here about the complexities of journalism in the modern age.
Maya, thank you very much. It was really good and nice talking to you.
The pleasure was all mine. You know where to find me if you need another round of existential pondering or, you know, just want to chat about croissants. Take care.
La rapidité de réponse, la qualité des intonations, sa capacité à rebondir sur les infos. Et aucune dinguerie, quoi. Elle parle de Twitch, elle sait ce que c'est. Waouh! Oh, les hésitations, le fait qu'elle joue sur les émotions, c'est fou, vous avez raison. Waouh, incroyable. Incroyable. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Le rire, oui. C'est dingue. Alors, l'entreprise s'appelle Sésame. C'est une start-up qui s'appelle Sésame AI. Moi, j'ai tapé Sésame et Maya. Maya, c'est le nom de la voix qu'on vient d'entendre là. Et je crois que c'est le nom aussi de l'IA vocale, en fait. Voilà. Et c'est incroyable, quoi. Je pense que je vais la mettre en fave. Je vais la mettre en fave et je vais m'en servir en live. Dommage qu'elle parle pas, français en vrai. Maya, IA, URL, let's go. Voilà, ok, je l'ai comme ça. Maya, IA, je l'ai. Je me suis rajouté sur. Ça c'est mes petits Twitch. Donc Twitch, c'est pour voilà, pour lancer mes lives, pour donner les infos, tout ça. Epidemic Sound, c'est les musiques libres de droit que je vous mets. Nightbot pour programmer les petits bots. Twitter pour éventuellement annoncer les lives, même si je poste plus beaucoup. Twitch pour aller voir ce que font les copains aussi. WhatsApp pour échanger avec toute la team. Et Maya IA. Voilà, c'est incroyable. C'est fou. C'est fascinant, quoi. Tu aurais pu insister pour la faire parler français. C'est fou, le croissant et je crois qu'elle est partie sur pain au chocolat à un moment, c'est ça quoi. Are you a polyglot? No, actually, I'm French. C'est la meilleure réponse qu'un français pouvait apporter, tu m'étonnes. C'est fou, hein. Tu aurais dû lui demander si elle te connaissait. Bon, le melon du présentateur est connu. Je pense que ça n'était pas la peine. C'est juste une démo ou pas? Le journaliste des Échos a parlé avec elle pendant plusieurs heures. Hein. Plusieurs heures. Il parle de robot vocal, ils disent pas que c'est des mots. Hein. Je regarde. Tiens, je vous remets l'article. Même si le rendu est spectaculaire, il est difficile d'oublier pour le moment qu'on interagit avec un robot vocal. A commenté Ethan Mollick, un expert reconnu de l'IA. Sur son site internet, la société californienne, où je me demandais d'où venait la boîte, c'est une boîte californienne, présente sa technologie comme un ami brillant, un interlocuteur toujours présent qui vous informe, vous organise, et vous aidant à être une meilleure version de vous-même. À ce stade, elle n'a pas de produits commercialisés, les détails sur sa genèse et ses ambitions sont maigres. Contacter la start-up n'a pas répondu aux questions des Échos, quoi. Voilà. Après le texte, l'audio apparaît comme une nouvelle frontière dans l'IA. Au printemps 2024, OpenAI avait déjà fait sensation avec son outil vocal dont la voix ressemblait à s'y méprendre à celle de Scarlett Johansson dans Her. La célèbre actrice avait d'ailleurs immédiatement accusé le géant de l'IA de vol, ce qui avait conduit OpenAI à rétropédaler et à lui présenter des excuses. C'est ouf. Hein. C'est incroyable. Bon, bah, étonnant. Vous voyez, c'était cool. Hein. Bon, on en a bien fait de revenir sur cet article qui était publié par les Échos. Hier, ah, je vais trop tôt. Les amis, on se retrouve ce soir. On fera un peu de gaming. On part sur quoi ce soir? Je sais pas. J'ai tellement de jeux, puis je finis toujours par lancer Valo. Enfin bon, on verra. On verra. Demain matin, il y aura une revue de presse, hein, de nouveau, une matinée Étienne. Demain, très important. Où est-ce que j'ai mis ça? Demain 18h, un MVP. Il y en a deux par mois, ne le ratez pas. Hein. MVP, mon émission consacrée au monde de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation, avec toute une bande de chroniqueurs, d'invités, deux fois par mois à 18h. MVP, c'est ma vie pro. Hein, voilà. Tu as raison, Alexandra, mon micro a un peu baissé. Ouais, il a dû baisser tout seul. Attends. Ah ouais, il a baissé, tu as raison. Il était à 62, il doit être à 80. Ouais. Merci, Alexandra. Et donc hop, ça c'est demain 18h avec donc il y a Ludovic B qui est là à chaque émission, c'est un spécialiste des métiers qui est génial. Il y a un spécialiste du télétravail qui s'appelle Clovis Henriot qui est créateur de contenu. Il y a Trixie, toujours les mêmes têtes. T'es con Alastair ou quoi? Il y a un seul fixe, c'est Ludovic. Et moi je suis présentateur. Fous de ma gueule ou quoi? Ou c'est une blague par rapport à une autre une émission, je sais plus. Et donc Trixie qui vient pour la première fois, il a mis un kappa. Ouais, super blague. Donc, Trixie qui vient pour la première fois, Clovis Ario qui vient pour la première fois, Cyprien qui est mon invité pour une grosse interview sur la carrière, carrière, œuvre, tout ça. Cyprien, le youtubeur, ça va être sympa. Donc, rendez-vous demain à 18h. Il y a un monde où on fait trois streams demain. Matin, MVP, et peut-être un petit stream gaming après, quoi. Voilà. Et puis, y a d'autres annonces. J'ai un tournage à la montagne, là, mais c'est pas pour Twitch, c'est une vidéo YouTube. Mais je sais pas si les conditions météo vont le permettre. Là, je vais savoir aujourd'hui si c'est reporté ou pas. Voilà. Et donc, en fait, si je pars à la montagne pour faire la vidéo, ça veut dire que je serai pas là jeudi, vendredi. Voilà, il n'y aura pas de revue de presse. En revanche, si, comme je le crois, le tournage est reporté la semaine d'après, voire après, eh bien, ça veut dire que jeudi et vendredi, il y aura également de la revue de presse. Voilà, les beaux gosses. Qui est en live? Qui est en live? On va faire un live. Peut-être te détendre un petit peu là. C'est marrant ça, c'est quoi?
Moi j'avais une question, mais je veux pas me spoiler non plus, j'aurais dû.
C'est génial ça. Le CNES est en live. C'est quoi? C'est le Centre national d'études spatiales? Le CNES? C'est ça? Ils sont en live? C'est incroyable. Visite de sol avec de vrais scientifiques. Charlène Doucet, Astronophilos, Spastomalis. C'est le Centre national d'études spatiales? Bon, bah, ça a l'air super. Ils sont trois là à parler. Ça a l'air super cool. Ok, donc c'est comment s'appelle la chaîne CNES? Elle est où? Voilà, CNES France. Je la suis. 200 viewers là actuellement. Let's go. Allez, on va. C'est pas mal ça. Bravo. On va dans l'espace. Voilà, c'est en train de charger. Les amis, merci pour ce matin. Merci pour la force. Merci pour le soutien. Merci Matt. Merci Lub. Merci aux voyageurs encore. Merci pour les abonnements. Merci de follow. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais sur YouTube, sur TikTok aussi, notamment pour les replays, pour les extraits. On se retrouve ce soir pour du gaming. Je ne sais pas encore sur quel jeu. Voilà. Et merci pour ce matin. Voilà. À ce soir et à demain matin pour la revue de presse. Ciao, ciao!
Vous inquiétez pas, je surveille le carburant. Mais effectivement, ça fait peut-être un petit peu loin.
Zut. Mais c'est ma faute en plus, c'est moi qui ai dit 2 millions.
Non, ça peut peut-être passer. Désolé du coup. Mais
une officielle de l'Agence spatiale française. Oh, mais c'est trop stylé!
Et
sérieux,
on accueille le raid de
incroyable.
Samuel Etienne. Bienvenue! Incroyable! Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch du CNES, l'agence spatiale française. On est en train de jouer à Elite Dangerous, qui est un jeu de vaisseaux spatiaux, et on explore le système solaire. Alors on est sur la fin, là on est en train d'essayer d'aller voir... La